بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis plus qu'heureux et ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cette mosquée à Coulommiers. Qu'Allah عز وجل accepte vos œuvres, celles des responsables qui ont pu organiser cette conférence. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur accorde la sincérité et fasse que ces événements se multiplient afin de faire revivre les cœurs. Car comme vous le savez, quand un prédicateur donne une conférence, l'effet, il se ressent immédiatement. On ressort de la mosquée, rechargé, on se sent bien et on en devient même accro, indépendant. On veut écouter de plus en plus de rappels. Fa qu'Allah azza wa jal accepte leurs œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite cette conférence qui n'est pas du tout simple. C'est un thème qui est assez délicat, mais qu'il faut aborder, d'accord ? Et vous allez le voir pourquoi. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la meilleure nuit pour l'homme et la femme. Cette nuit où les amoureux se retrouvent enfin seuls chez eux. Et inutile de vous dire qu'ils étaient impatients de se retrouver seuls. Il s'agit de la nuit de noces. Donc nous allons aujourd'hui, bi'idhnillah, traiter ce sujet qui est la nuit de noces. Quand l'homme et la femme s'aiment, et je parle ici d'un amour pur, licite, après cette vue au moment de la demande de mariage, et j'ai bien dit un amour licite, loin de tout ce qui est vu dans les films et les feuilletons, sachez que la meilleure chose pour eux est le mariage. La meilleure chose pour eux, après qu'il ait vu cette femme et qu'elle l'ait vue au moment de la demande de mariage, d'accord ? Conformément aux règles du Coran et de la Sunna, la meilleure chose pour eux, c'est le mariage. Et ce n'est pas mes paroles. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhumah, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Il n'a pas été constaté de meilleure chose que le mariage pour deux personnes qui s'aiment. » Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Nous allons, inshallah, pendant ce dars, vous parler de la première nuit, de la nuit de noces et de ses règles, afin que nos frères et nos sœurs se conforment au Coran et à la Sunna et qu'ils ne fassent pas d'erreur ce jour-là. Car hélas, les erreurs sont nombreuses. Les traditions et les coutumes, l'ignorance ont pris le dessus. Sans compter, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, que si tu veux être heureux et heureuse dans ce bas monde et dans l'autre, tu te dois de mettre en pratique ta religion. Allah tabaraka ta'ala a dit dans sourate An-Nahl, sourate 16, verset 97, « Man amila saliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maloun. » Allah dit « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, donc écoute bien, mâle ou femelle, ils font des bonnes œuvres, tout en étant croyant, ils croient en Allah, ils font des bonnes œuvres, nous lui ferons vivre une bonne vie. » C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran. Donc, tu veux vivre une bonne vie, pratique ta religion. Nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Mon frère, ma sœur, si tu veux que ton mariage soit un mariage béni, un mariage plein de joie, il te faut à tout prix mettre en pratique ta religion. Dans le cas contraire, tu ne vivras pas le vrai bonheur. Si tu mets en pratique Al-Qur'an wa Sunnah, du début à la fin de ton mariage, tu seras heureux. Dans le cas contraire, tu ne connaîtras pas la joie. Et je sais de quoi je parle, et certains parmi vous savent très bien de quoi je parle. Les emails, les coups de fil qu'on reçoit, la plupart c'est pour les problèmes de couple, les médiations, les divorces, etc. Pourquoi ? Le démarrage a été très mauvais. Le démarrage n'a pas été en conformité avec le Coran et la Sunna. Le démarrage a été fait en fonction des passions. Je l'aime, elle est belle, etc. Et le côté religion, on l'a mis de côté. Et à la fin, il souffre. Sachez donc que vous avez tous besoin de ce type de dars. Que vous soyez déjà marié ou que vous soyez célibataire. Car hélas, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas les règles de la première nuit et les règles des rapports intimes, qui sont nombreux et nombreuses. Et pour éviter de perdre du temps, rentrons dans le vif du sujet directement. La première règle de la nuit de noces, vous savez c'est quoi ? C'est de faire des do'as, des invocations pour les nouveaux mariés. Une fois que le contrat de mariage est fait, et avant que les deux amoureux ne se retrouvent chez eux, il est recommandé de leur faire une invocation. Et on va dire quelle invocation, Inch'Allah. Au lieu de remplir la maison de zararit ou de yuyu, il vaut mieux faire le do'as. Le dua que notre religion nous a enseigné, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte, que lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam voulait féliciter et invoquer en la faveur d'une personne qui se mariait, il Ali sallallahu alayhi wa sallam disait barakallahu lak wa baraka alayk wa jam'a baynakuma fi khayr. C'est très facile. Barakallahu lak wa baraka alayk wa jam'a baynakuma fi khayr. Qu'Allah te bénisse et qu'Allah descende sur toi la bénédiction et qu'il vous unisse dans le bonheur. N'est-ce pas une magnifique invocation? Regarde les belles paroles du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah te bénisse et qu'Allah descende sur toi la bénédiction et qu'il vous unisse, donc l'homme et la femme, dans le bonheur. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'Albani. Ce sont des paroles simples, faciles à apprendre et qui sont tout simplement magnifiques. Cette invocation est une cause de joie dans la vie d'un couple. Donc n'oubliez pas que la première règle de la nuit de noces, quand on voit les nouveaux mariés, on leur dit « Barakallahu lak » وبارك عليك وجمع بينكما في خير. C'est facile, n'est-ce pas? طيب. Il y a aussi une autre invocation. Aïcha radiallahu anha, elle dit que sa mère l'a fait entrer dans une maison où se trouvaient les femmes des Ansar qui lui dirent على الخير والبركة وعلى خير طائر. Ce qui signifie sur le bien et la bénédiction sur la meilleure part prédestinée. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ça, c'est donc la première règle de la nuit de noces, l'invocation pour les nouveaux mariés. Il ne faut surtout pas négliger le dua pour les mariés. Clair? Deuxième règle de la nuit de noces, annoncer le mariage. L'annoncer, i'lan ou nikah. Car le mariage est un moment de joie. Mais attention, annoncer le mariage en se conformant au Coran et à la Sunna, et non pas en faisant ce qui est interdit. Parce qu'aujourd'hui, quand ils veulent annoncer le mariage, c'est quoi? Une grande salle? Le DJ? C'est vrai ou c'est pas vrai? La musique? Peut-être une danseuse, ou plusieurs, des gens qui dansent, et la mixité, et peut-être même de l'alcool qui est consommé, etc. Ça, c'est annoncer le mariage à la façon d'Iblis, à la façon de Satan. Nous, dans notre religion, c'est pas comme ça qu'on annonce le mariage. Donc, tu vas annoncer le mariage en te conformant au Coran et à la Sunna, et non pas en faisant ce qui est interdit. Et il n'est pas permis de cacher le mariage sans l'annoncer. Jusqu'à ce que l'imam Malik, rahimallah, a dit, si un homme se marie avec une femme en secret, donc sans le dire, son mariage est invalide. Ça c'est qawl l'imam Malik, rahimahullah. Donc il faut annoncer le mariage, l'annoncer, la preuve. Selon Ibn Zubayr, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, a'linu nikah, proclamer le mariage, annoncer le mariage. Clair? Et c'est rapporté par Ahmed et jugé valide par l'Albani. Et selon Muhammad ibn Hatib, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, ce qui distingue l'union licite d'une union illicite, c'est quoi? C'est le tambour et les chants, et ceci pendant le mariage. Et ceci donc pendant le mariage, rapporté par An-Nasa'i et Ibn Majah, et jugé valide par Al-Albani. C'est le tambour et les chants. Et on parle ici du chant licite, les chants qui ne contiennent pas de paroles obscènes ou des paroles qui réveillent des envies interdites. Il est recommandé dans nos mariages que pour les sœurs dans leur salle, il y ait des sœurs qui chantent pour elles. Des chants qui ne contiennent pas de mauvaises paroles ou des paroles impudiques, et que tout cela ne soit pas accompagné bien sûr d'instruments de musique, car ces derniers sont interdits, sont haram en islam. Et pour plus d'informations, nous avons un dalle sur le site qui est la musique, et que cela bien sûr se fasse sans que les hommes entendent leur voix. Ça c'est donc les chants des femmes. Et dans Sahih al-Bukhari, Aisha radiallahu anha avait conduit une nouvelle mariée à son époux qui était des Ansar. Le prophète alayhi salatu wasalam lui dit, ô Aisha, n'aviez-vous pas de divertissement? Est-ce qu'il n'y avait pas de divertissement dans votre mariage? Car les Ansar aiment les divertissements. Donc dans le mariage, il n'y a pas de mal qu'il y ait un divertissement, qu'il y ait des chants, que les gens sentent la joie. Non, absolument pas. Et dans une version rapportée par Tabarani et authentifiée par l'Albani, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, avez-vous envoyé une petite fille qui tape sur le tambour et qui chante? Aïcha radiallahu anha lui dit, et que doit-elle dire? Et il alayhi salatu wasalam dit, et attention, ce qu'il va dire après, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire qu'elle doit obligatoirement dire ce que vous allez entendre. Il alayhi salatu wasalam dit, elle dit, atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum walawla al-dhahab al-ahmar ma halat bawadikum walawla al-hintatu samra'u ma saminat adharikum. Ce qui signifie, nous sommes venus chez vous, nous sommes venus chez vous, saluez-nous, nous vous saluerons. S'il n'y avait pas l'or rouge, vous n'aurez pas pris place dans vos déserts, et s'il n'y avait pas de froment brun, vos joues n'auraient pas grossi. On voit que le prophète alayhi salatu wasalam leur enseigne de dire des bonnes paroles qui sont loin de tout ce qui réveille les envies illicites et qui ne tuent pas le cœur, comme c'est le cas des chants d'aujourd'hui. Donc je reviens à dire qu'il est recommandé d'annoncer le mariage. La première règle, on la répète, c'est le dua, qu'on va faire une invocation pour les nouveaux mariés. La deuxième, c'est annoncer le mariage. Troisième règle, préparer l'épouse et l'embellir pour son époux. De même, préparer l'époux et l'embellir pour son épouse. Les embellir. Faire qu'ils soient super beaux et présentables cette soirée-là. C'est clair ? C'est une nuit très importante, une nuit de joie, une nuit attendue par l'homme et la femme. Il faut donc bien les préparer. Il faut faire en sorte que l'épouse soit la plus belle et la plus présentable à son mari. Et il ne faut surtout pas négliger cela. Aïcha radiallahu anha dit, un groupe de femmes m'ont préparé pour le mariage, puis elles m'ont remise au prophète alayhi salatu wasalam, et c'est rapporté par Abu Daoud. Donc Aïcha, qui était l'épouse du prophète alayhi salatu wasalam, elle a été préparée par les femmes des Ansar. Et les Ansar, c'est les habitants de Médine. Donc, elle a été préparée. Et dans le sahih de l'imam muslim, Ummu Sulaym a préparé sa fille bint Huyay, l'épouse du prophète alayhi salatu wasalam. Elle l'a préparée. On déduit de ces deux preuves que l'on doit préparer la femme. Et attention, celle qui doit préparer la femme est une femme et pas un homme. Celle qui doit l'embellir pour son mari, c'est qui ? C'est une femme et pas un homme. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, hélas, regardez un petit peu comment ça se passe. On prend la fille, il se peut même que c'est le père de famille, il va chez le coiffeur et lui dit, regarde, je te laisse ma fille, écoute, je te fais confiance. Tes mains, c'est de l'or. Je te fais confiance, je sais que ta main, quand elle touche quelque chose, c'est terminé. A'oudhu billah. Aïna al-ghayra. Elle où la jalousie ? Mes frères, vous qui êtes père de famille, comment est-ce que vous pouvez permettre à un homme étranger de toucher les joues de votre fille, de lui coiffer les cheveux, de la maquiller, de l'embellir ? C'est un homme étranger. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit en islam. Et il la maquille et lui dit, t'inquiète pas, tu vas rien sentir, tu vas même dormir tellement mes doigts ils sont doux. A'oudhu billah. Donc celle qui va préparer la fille pour le mariage, c'est qui ? C'est une femme, et pas n'importe laquelle, une femme pieuse. Une femme pieuse. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'il est possible que tu emmènes ta fille chez une femme qui ne craint pas Allah Azzawajal et qui lui dit, oh, tes sourcils, ça va pas, attends, je t'arrange ça. Et elle lui attire la malédiction d'Allah Azzawajal. Pourquoi ? Parce qu'elle lui a épilé les sourcils et c'est haram en islam. Et je sais que ce sujet touche énormément nos sœurs et que beaucoup d'entre elles n'arrivent pas à accepter. Comment ? Tu veux que je laisse mes sourcils sans les tailler, sans épiler mes sourcils ? Ma sœur, l'ordre d'Allah passe avant tes envies et tes passions. Ma sœur, l'ordre de Muhammad alayhi salatu wasalam passe avant tes envies et tes passions. Ma sœur, est-ce que tu sais ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wasalam sur celle qui s'épile les sourcils et celle qui épile les sourcils ? Écoute bien ma sœur, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit que Dieu maudisse. Vous savez ça veut dire quoi qu'elle soit maudite ? Que Dieu maudisse. Ça veut dire qu'elle soit chassée de la miséricorde d'Allah. Et on entre au paradis que par la miséricorde d'Allah. Que Dieu maudisse celles qui font le tatouage et celles qui se font tatouer. Et attention, Al-Hinna, le henné, ne fait pas partie du tatouage. Comme ça, les gens ne comprennent pas la chose d'une mauvaise manière. Donc, que Dieu maudisse, ça c'est Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qui dit, que Dieu maudisse celles qui font le tatouage et celles qui se font tatouer. Celles qui taillent les sourcils et celles qui se les font tailler. T'as vu ? Elle est maudite. Maudite par qui ? Par Allah. C'est un grand péché. C'est grave. Et après, c'est pas terminé. Celle qui se lime les dents, dénaturant ainsi la création de Dieu, une femme lui reprocha ses paroles. Elle lui dit, oh Ibn Mas'ud, mais qu'est-ce que tu es en train de dire ? Il lui dit, qu'ai-je ne pas à maudire ce que le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, a maudit ? Donc, il montre bien Ibn Mas'ud que le prophète, alayhi salatu wasalam, a maudit ces catégories de personnes. Et il a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, interdisez-le à vous-même, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Clair ? Donc ma sœur, ça c'est interdit. Par contre, Cheikh Ibn Baz, rahimallah, il dit que les poils qu'il y a entre les deux sourcils, ici qui sont au-dessus du nez, ceux-là ne font pas partie des sourcils et que ceux-là, vous pouvez les enlever. D'accord ? Ça c'est la fatwa de Cheikh Ibn Baz dans Al-Lajna Da'ima. De même que d'autres parmi les contemporains, comme Cheikh Mohamed Hassan, hafidhullah, il dit que les poils qu'il y a au-dessus des sourcils, vous pouvez mettre des colorants ou des choses en fait qui rendent la couleur des poils blancs. Et de cette manière donc, elle n'a pas épilé et en même temps, elle a couvert les surplus de poils qu'il y avait au-dessus de ses sourcils. Ça, c'est ce qui est permis. Mais par contre, épiler, ça c'est haram. De même, il arrive à nos sœurs qui décident de s'épiler tout le corps pour leur futur mari et c'est une chose qui est bonne à faire. D'accord ? C'est bien que la femme, pour son mariage, s'épile donc les poils des aisselles, du pubis, etc. pour son mari. Ça, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est quoi ? c'est qu'elle va demander à une femme de l'aider à faire cela. Et ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas le droit de montrer sa awra, sa nudité à une femme. Elle n'a pas le droit. Sa poitrine, du nombril au genou, ça, elle n'a pas le droit de le montrer à une femme. Elle n'a pas le droit. Et là, on parle d'aucune nécessité. Il n'y a pas de daroura. C'est pas quelque chose qui lui permet d'aller voir une femme et de lui dire « Ma nudité, s'il te plaît, je veux que tu me l'épiles. » Ça, c'est un crime, mes sœurs. Un peu de pudeur, Allah Jazi Kumkhir. Un peu de pudeur. C'est pas comme ça que ça se passe. Si la femme qui va s'occuper de nos sœurs et de nos filles est une femme pieuse, qui n'ira pas décrire sa beauté à quelqu'un et qui ne divulguera pas les secrets qui lui ont été confiés, il est permis alors de se rendre chez elle. Dans le cas contraire, non, on évite. D'accord ? Une femme perverse qui va aller la décrire, qui va divulguer ses secrets, ou bien qui va lui faire faire des choses haram comme le fait de lui épiler les sourcils ou autre, on l'évite. Et bien sûr, aucun homme étranger, ma sœur, n'aura le droit de te voir maquillée ce soir-là, mis à part les femmes pieuses, tes maharim. Clair ? Ça, c'est très important. C'est pas la femme, elle se fait super belle et elle marche au milieu de tous les hommes et ils disent franchement, mashallah, le frère, comment il a choisi une lucarne, hein, à Ranadia. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Allô, mais non, c'est pas possible. Non. Ça, ça a évité. Et l'épouse devra aussi faire attention au parfum ce soir-là. Car dans le cas où elle en met, puis qu'elle se trouve dans un endroit où il y a des hommes, cela est interdit. La preuve. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, nous rapporte que le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Toute femme qui se parfume puis passe près de gens pour qu'ils sentent son odeur est fornicatrice. » C'est pas une petite chose. Toute femme qui se parfume puis passe près de gens pour qu'ils sentent son odeur est fornicatrice. C'est rapporté par Ahmed Abu Daoud, Al-Tirmidhi al-Nasa'i. Bien sûr, chez elle, pour son mari, elle pourra en mettre autant qu'elle veut. Elle peut se parfumer comme elle veut. Et d'ailleurs même, on recommande à la femme de se faire tout le temps belle chez elle, tout le temps d'être attirante, tout le temps. C'est-à-dire que la femme, avant de se marier, et c'est valable pour l'homme, et on va bien sûr parler de l'homme juste après, elle doit non seulement être attirante, se faire belle, s'entretenir, et porter les vêtements et les sous-vêtements qui attirent le mari. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que là, on parle de construire une vie de couple. Une vie de couple, c'est pas un CDD d'un mois. D'accord ? Une vie de couple, c'est bi'idhnillah pour toute la vie. Il faut donc savoir attirer, et c'est dans les deux sens, et on va l'expliquer, inch'Allah, pour ce qui est de l'homme. Donc la femme, elle met le paquet concernant les vêtements qui attirent, les parfums, le maquillage, s'il aime, s'il n'aime pas, elle fait tout pour faire plaisir à qui ? À son mari. Pour ce qui est du mari, est-ce qu'il doit se faire beau lui aussi ? Mais bien sûr, faut arrêter de croire que tout est dirigé vers la femme et l'homme, rien. Il est exigeant, il veut que sa femme elle soit tout le temps belle, tout le temps avec des nouveaux vêtements super attirants, etc. etc. Et lui, il est là, mon frère, avec son pyjama, 4 mois, il ne l'a pas changé. Laïdik, mon frère, même toi, tu dois être super beau. Faut que quand elle te voit, elle dit franchement, mashallah, ça fait plaisir, il est beau, il est séduisant. Ça, mais les frères, c'est obligatoire, c'est le mariage. Subhanallah, si elle ne le voit pas en toi, toi, le mari, elle va le voir chez qui ? Elle s'est mariée pour préserver son regard, pour préserver sa religion, sa chasteté. Et toi, t'es là, mon frère, comme un légume. Non, tu dois te faire beau. Allah tabaraka ta'ala dit dans sourate al-Baqara, sourate 2, verset 228, « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. Elles aussi, elles ont des droits. Elles aussi, elles ont des droits. Quant à elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, ce grand compagnon du prophète, alayhi salatu wasalam, disait « J'aime me faire beau pour ma femme, tout comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. » Donc toi aussi, mon frère, sors de la routine. Habille-toi bien. Achète des beaux vêtements à la maison. Ça ne veut pas dire achète des choses qui coûtent cher. Non, fais-toi beau à la maison. Change de style. Parfume-toi. D'accord ? Lave-toi. Mon frère, tu rigoles. Tu rigoles, mais... Va voir, certains, mon frère, ils connaissent que le ghusl de Jum'a et de Janaba, c'est tout. Non, faut se faire beau, d'accord ? Faut être propre, faut être attirant. C'est hyper important, voilà, regardez. Là, peut-être, certains, ils se disent, ah, franchement, c'est osé de parler ça dans une mosquée. Mais, Akhi, et toi, ma sœur, si on ne vous parle pas de ça dans les mosquées, vous allez l'apprendre où ? Où ? Sur Internet ? Dans les sites d'Ahram ? Où ? Faut qu'on vous parle de tout ça. Sans compter que vos parents... Peut-être ils vont pas aborder ces sujets avec vous, voire même c'est sûr. Il y a la honte, le jeune même Hichem, mon frère, de parler de ça ou de même penser à en parler à son père ou à sa mère. Il n'y a pas de pudeur dans la science et ça on va détailler ce point juste après, Inch'Allah. Et sachez que Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a rapporté que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: Dieu est beau et il aime la beauté. Donc il faut se faire beau à la maison. D'accord? Il faut se faire super beau pour son épouse et l'inverse. Et c'est rapporté par les mêmes musulmans. Notre prophète alayhi salatu wasalam, il se faisait beau et il faisait attention à sa tenue et il était tout le temps propre sallallahu alayhi wasalam. Regarde, avant de rentrer chez lui, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? La première chose, il commençait par le siwak. Il commençait par le siwak. Et ça, c'est rapporté par un musulman. Les gens de science ont dit que la raison de cette action était qu'il ne voulait pas que ses épouses sentent de lui une mauvaise odeur de sa bouche. Tu vois? Il faisait tout pour être propre, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait cela alors qu'il était propre et pur, alayhi salatu wa sallam. Donc l'homme aussi doit se faire beau pour sa femme. Et attention que cela ne pousse pas l'homme à se raser la barbe pour son mariage. Car faire cela fait partie des plus grands péchés, car se raser la barbe, c'est changer la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce n'est pas mon opinion, c'est des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam qui sont nombreux et c'est l'opinion des quatre écoles, Malik, Shafi, Abu Hanifa et Ahmed. Et c'est aussi une ressemblance aux femmes. Et le prophète alayhi salatu wasalam a maudit l'homme qui cherche à ressembler aux femmes et la femme qui cherche à ressembler aux hommes. Par contre, il est recommandé à l'homme de se raser le reste des poils du corps, à savoir les aisselles, d'accord, et les poils de son pubis. Et bien sûr, il mettra le paquet aussi sur les vêtements. Être attirant, être propre, être séduisant pour son épouse. Ensuite, quatrième règle de la première nuit du mariage, la nuit de noces, c'est les recommandations que l'on doit faire aux mariés. Et ces recommandations-là, elles viennent de qui? Principalement des parents. Donc les recommandations faites aux mariés par leurs parents. Hélas, nombreux sont les parents qui ne conseillent pas leurs enfants comme il se doit avant qu'ils ne se marient. Et plus choquant que cela, on a des parents qui vont parfois, pour pas dire tout le temps, conseiller le mal à leurs enfants avant qu'ils ne se marient. Ils vont leur conseiller des choses diaboliques. Et je vais en parler un petit peu après. Alors que les compagnons, radiallahu anhum, c'était que des bons conseils. Anas, radiallahu anhum, ce grand compagnon, a dit: lorsque les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, donnaient en mariage une de leurs filles, ils lui recommandaient de servir son mari et de lui donner ses droits. T'as vu la recommandation? Les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, quand ils donnaient une fille en mariage, ils lui recommandaient de servir son mari et de lui donner ses droits. Et Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu a fait une recommandation à sa fille. Avant qu'elle ne se marie, il lui dit: regarde la recommandation en or. Regarde la recommandation en or de Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu à sa fille. Écoute un peu ce que ce père savant et pieux a dit à sa fille avant qu'elle se marie. Il lui a dit: méfie-toi de la jalousie, car c'est la clé du divorce. Regarde les paroles. Et il lui a dit: et méfie-toi de la multiplication des reproches, car cela conduit à la haine. Subhanallah, des paroles sages. C'est vrai, c'est pas vrai? Il lui a dit: et méfie-toi de la multiplication des reproches, car cela conduit à la haine. Et je te recommande le kohl, car c'est la meilleure des parures. Et je te recommande l'eau, car l'eau est le parfum le plus odorant. C'est le plus beau des parfums. Voilà le conseil d'un père pieux et savant pour sa fille la nuit de son mariage. Et prenez garde, mes frères et sœurs, à ne pas faire peur à vos enfants de la première nuit du mariage. Car à la base, ils ont peur. Ils ont peur de cette nuit. Et j'ai reçu des emails où les sœurs me disaient: « Akhi, parle s'il te plaît en détail de la première nuit parce que j'ai peur de cette nuit. » Donc nous, on ne doit pas rajouter une peur sur la peur qui existe déjà. Faut pas venir dire à ton fils ou à ta fille: cette nuit, tu vas être traumatisé. Tu vas avoir peur. Cette nuit, tu seras stressé. C'est normal, hein, tout le monde est stressé. Non, mais non. Mais non, toi, tu es là pour enlever la peur et enlever le stress. D'accord? Et on les voit, les jeunes, surtout les filles, se poser 1000 questions sur la première nuit, sur les rapports intimes. T'entends dire: oui, mais s'il m'arrive ceci, comment est-ce que je fais? Et s'il m'arrive cela, comment est-ce que je fais? Etc. Et on va essayer, Inch'Allah, de répondre à toutes ces questions dans ce thème. Il y a hélas des pères de famille qui font peur à leurs fils. Et je ne vous parle même pas des mères de famille, qu'Allah les guide, ce qu'elles disent à leurs filles. Tu les entends dire: essaye de tout faire pour ne pas lui donner ce qu'il veut. T'imagines, la maman, elle dit ça à sa fille: fais tout pour ne pas lui donner ce qu'il veut, afin que tu gardes ta fierté. Et à cause de cette maman qui donne des conseils rapportés par Iblis, il se peut que l'épouse refuse d'avoir des rapports avec son mari. Et par la suite, cela amène le mari à ne plus l'aimer. Et si cela dure, il se peut que le mari divorce sa femme. C'est vrai, c'est pas vrai? D'autres, parmi les mères, qu'Allah les guide, vont recommander des bêtises à leur fille. Parmi elles, Il y en a qui disent, dès que ton mari entre chez toi, retourne ses chaussures et écrase-les avec tes pieds. De cette manière, tu le domineras. Wesh, t'as cru que c'était la guerre ou quoi? T'as cru le mariage, hein, Khalti, toi qui m'entends? T'as cru le mariage, c'était le harb? C'est la guerre? On se marie pour faire la guerre ou on se marie pour vivre heureux? C'est quoi ces conseils? Tu le domineras. Sois pas facile avec lui. Hagar-le. Fais-lui la misère. Ça, tout ça, ça n'a rien à voir avec notre religion. Ça, c'est attaché à Iblis, la'anatullah alayh. D'autres recommandent au mari d'être dur avec sa femme. T'as le père qui va lui dire, écoute bien, Wildi, je sais ce que je te conseille là. Hein. Je l'ai fait, ça a marché. Tape ta femme tout le temps, elle va t'aimer. Tape la triha à volonté, comme chez Flunch. Tu la lâches pas. Plus tu tapes, plus elle va t'aimer. Mais t'as vu ça où, Billah Alek dans le din? Billah Alek, tu l'as vu où? Hein? Tu l'as vu où ça dans le din? Dans la religion, tu l'as vu où? Il lui dit, tape, tape, elle te lâchera pas. Et de cette manière, elle saura que t'es un grand bonhomme. Ça, c'est des conseils à mettre à la poubelle. Ça, t'oublies. D'accord? Mes frères et sœurs, attention à ne pas écouter tous ces conseils diaboliques. Et je m'adresse à vous, les parents. Recommandez à vos enfants de craindre Allah Azzawajal et demandez à vos enfants de faire des doigts, de chercher l'aide et le secours auprès d'Allah Azzawajal. C'est comme ça et pas autrement. Mais tout ce qu'on entend aujourd'hui là, ou bien les parents qui disent, écoute, nous on va te recommander, voilà, pour les rapports intimes, tu fais ça, ça, ça. Et de toute façon, on est devant la porte, hein, on attend le drap. On voit s'il y a du sang ou pas, l'hymen, t'as réussi, t'as pas... A'oudhou billah, tout ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça, c'est les coutumes et les traditions qu'il faut jeter à la poubelle. Ibn al-Qayyim, rahimallah, il disait que la chose qui a le plus combattu les prophètes, c'était les coutumes et les traditions. Attention que la coutume, elle ne vienne pas prendre place dans notre vie et qu'elle écarte la sunna. C'est interdit, ça, c'est grave. Donc, faites attention aux conseils que vous écoutez et vous, les parents, donnez de bons conseils à vos enfants avant qu'ils ne se marient. Cinquième règle de la nuit de noces est que le mari doit être doux avec sa femme et qu'il chasse la peur qu'elle a dans son cœur. Comme vous le savez, les femmes ont souvent peur de la première nuit. C'est donc pour cela que l'homme doit être doux. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'était un modèle. Voyons un peu comment il s'est comporté la première nuit. Voyons un peu à quoi ressemblait sa douceur. Prenons exemple sur lui. Vous les hommes, écoutez, et vous mes sœurs, écoutez bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, notre modèle était doux avec ses épouses. Et il veillait à ce que son épouse n'ait aucune peur et qu'elle se sente à l'aise chez elle, dans son nouveau foyer. La preuve est le hadith de Asma bint Yazid, radiallahu anha, qui dit, j'ai préparé Aïcha radiallahu anha, donc elle a embelli Aïcha radiallahu anha pour le prophète alayhi salatu wassalam. Puis, je suis venu et j'ai invité le prophète alayhi salatu wassalam à venir à ses côtés. Donc elle a invité le prophète alayhi salatu wassalam à venir à côté de qui? Aïcha radiallahu anha, qui était préparée pour lui, sallallahu alayhi wasallam. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu et s'est assis à côté de Aïcha. Puis, on lui a apporté un récipient qui contenait du lait. Mais dites bien, le prophète alayhi salatu wassalam a bu ce récipient, puis a tendu ce récipient à Aïcha, sa femme, qui a baissé sa tête par honte. Regarde la pudeur, subhanallah, de Aïcha radiallahu anha. Et là, Asma radiallahu anha a dit à Aïcha radiallahu anha, prends ce récipient de la main du prophète alayhi salatu wassalam, prends-le. Elle, donc radiallahu anha, Aïcha, a alors pris de ce récipient et a bu de ce lait, puis elle fut rassurée. Quand elle a bu et que ça y est, elle a commencé donc à sentir que l'ambiance elle était détendue, ça y est, elle est rassurée et c'est rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Ça, c'est le comportement que nous enseigne notre prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est une bonne chose que tu puisses lui servir à boire pour détendre l'atmosphère, pour essayer de faire partir cette peur et cette crainte. D'accord? Elle est chez toi, vous venez de rentrer, tu ramènes quelque chose à boire. Le prophète alayhi salatu wassalam, on venait de lui ramener un récipient de lait. D'accord? C'est ce qu'il avait auprès de lui et c'est ce qu'il a servi à Aïcha. Donc c'est pas une condition que ce soit du lait. Ça peut être du lait, un cocktail, de jus, n'importe, ou bien même un repas. L'essentiel, c'est quoi? L'idée. Comprends l'idée? C'est de détendre l'atmosphère. D'accord? Par un repas. Et je m'adresse surtout aux frères, ne soyez pas pressés de passer directement à l'acte. Non. Parce que si tu veux que ta femme se comporte avec toi de la meilleure des manières et que sa peur disparaisse, il faut que l'intro, elle soit nickel. Ça veut dire que tu fasses partir cette peur, tu détends de l'atmosphère par une boisson, parler, rire avec elle, etc., etc. C'est clair? Cinquième règle de la nuit de noces, Cinquième règle de la nuit de noces est que l'homme invoque Allah Azzawajal en demandant à Allah de lui bénir sa femme. Et ça, c'est la première chose qu'il doit faire. Il doit dire « Bismillah », invoquer la bénédiction d'Allah et dire comme cela est rapporté dans la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Écoutez ce hadith. Selon le grand-père de Amr ibn Shu'aib, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Lorsque l'un d'entre vous se marie à une femme ou achète une esclave, qu'il la tienne par le devant de sa tête. » Donc il met sa main ici, d'accord, sur son front, comme ça, et qu'il cite le nom d'Allah en disant « Bismillah ». Donc lui va mettre sa main sur le front de son épouse et il va dire « Bismillah ». Et qu'il invoque la bénédiction et qu'il dise. Donc il va le dire « Bismillah, Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayh ». Écoutez bien. « Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayh wa a'udhu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha alayh ». Ce qui signifie « Oh Allah, je te demande son bien ». Le bien de qui? De ton épouse. « Oh Allah, je te demande son bien et le bien que tu as créé en elle. Et je te demande la protection contre son mal et le mal que tu as créé en elle » rapporté par Abu Daoud et jugé valide par l'Albani. Et il est demandé à l'homme d'enseigner cette invocation à sa femme. Pas pour qu'elle le dise elle-même, mais pour qu'elle comprenne pourquoi est-ce que l'homme fait cette invocation. Pour qu'elle ne soit pas surprise au moment de cette invocation, car elle pourrait être étonnée si elle entend invoquer contre son mal. Donc soit l'homme va dire à sa femme, voilà la sunna que je dois faire, la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, il lui enseigne, soit il va faire l'invocation à voix basse sans qu'elle ne l'entende en mettant sa main sur son front. D'accord? Et cette invocation ne doit être dite qu'au moment de la nuit de noces. Et c'est l'homme qui le dit à sa femme et pas l'inverse. Septième règle de la nuit de noces, la première nuit du mariage, est qu'il est recommandé à l'homme, avant d'avoir des rapports avec son épouse, qu'il prie avec son épouse deux rak'at. Deux rak'at. D'accord? Dans ces deux rak'at-là, la femme va se tenir derrière lui, pas à sa droite ni à sa gauche, elle va se mettre derrière lui, il va diriger la prière, et sachant que les mariages se font généralement, d'accord, dans la soirée, et qu'il va rentrer chez lui le soir, donc c'est une prière nocturne, qiyamul layl. Donc il va faire ça à voix haute. Il va faire deux rak'at en récitant à voix haute, et elle, derrière lui, ils vont prier ensemble. Ça, c'est une sunna. Écoute bien. Ça a été rapporté par les compagnons et les tabi'in, les successeurs. Ibn Abi Shayba, rahimahullah, a rapporté dans son Musannaf avec une chaîne de transmission authentique, comme l'a dit al-Sheikh al-Albani, rahimahullah, que selon Abu Sa'id, l'affranchi d'Abu Usayyid, le compagnon, ce dernier a dit « Je me suis marié alors que j'étais esclave. Et j'ai invité un groupe de compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux, il y avait Abdullah ibn Mas'ud. » Inutile de vous faire des commentaires sur sa science. Un grand compagnon, un savant parmi les compagnons très connus, radiyallahu anhu. Il avait donc Abdullah ibn Mas'ud, Hudhayfa ibn al-Yaman, pareil un grand savant, et Abu Dharr, trois grands compagnons. Et Abu Usayyid dit, le temps de la prière arriva. Puis Abu Dharr, c'est pas le propriétaire de la maison, Abu Dharr se leva afin de diriger la prière. Et les compagnons lui dirent, cela ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce que quand tu vas chez quelqu'un, celui qui dirige la prière, c'est qui? C'est le propriétaire de la maison. Sauf s'il te donne l'autorisation. Abu Dharr, il s'est avancé, les compagnons l'ont dit, cela ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi de diriger la prière. La raison est que le prophète, alayhi salatu wasalam, a interdit le visiteur de diriger la prière chez le propriétaire de la maison, sauf s'il lui donne la permission. Quand tu vas chez quelqu'un, tu te dois de demander la permission. Clair? Même si tu connais plus que lui dans la religion. Abu Sa'id dit, j'ai donc dirigé la prière et j'étais un esclave. Puis lorsque j'ai terminé la prière, ils me donnèrent un enseignement et dirent, lorsque ton épouse entrera auprès de toi, prie deux unités de prière, donc deux rak'at. Prie deux unités de prière et demande à Allah de t'accorder son bien et cherche refuge auprès d'Allah contre son mal. Puis ils lui dirent, ensuite c'est entre toi et ton épouse. Ces deux rak'at ont donc été faites par nos compagnons ainsi que par les tabi'in. Rahimahumullah wa radiyallahu anhum. D'accord, les tabi'in qui ont suivi les compagnons. Et un homme du nom de Abu Hariz vint voir Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu et lui dit, « Oh Abdullah, je me suis marié avec une jeune fille vierge et j'ai peur qu'elle me déteste. Que dois-je faire alors que je veux qu'elle m'aime ?» Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lui dit, « L'affection provient d'Allah et l'aversion du diable. Il veut vous faire détester ce qu'Allah vous a rendu licite. Ainsi, lorsqu'elle viendra à toi, il lui parle donc de la première nuit, prie avec ton épouse deux rak'at. Donc elle se met derrière et il prie à voix haute. Prie avec ton épouse deux rak'at, puis invoque Allah et dit Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya. Allahumma ajma' baynana ma jama'ta bi khayr wa farriq baynana idha farraqta ila khayr. Ô Allah, accorde-moi la bénédiction en mon épouse et accorde-lui la bénédiction en moi. Ô Allah, garde-nous unis tant que tu nous unis dans le bien et sépare-nous si tu nous sépares dans le bien. Claire ? Voilà comment doivent être nos demeures, des maisons pleines de foi et pleines de joie. C'est comme ça que sont les musulmans dans leur vie de couple. Pensez pas qu'un musulman c'est quelqu'un qui est triste dans sa maison. Et qu'une femme musulmane, c'est une femme qui se fait battre et qui se fait léser et qui connaît rien d'autre à part faire des tagines et des couscous. Non, non, absolument pas. Une femme musulmane, c'est une femme heureuse, épanouie dans sa vie. Claire ? Donc je reviens à dire que la septième règle de la première nuit, la nuit de noces, est qu'il est recommandé à l'homme, avant d'avoir des rapports avec son épouse, qu'il prie avec son épouse deux rak'at. C'est clair ? C'est bon jusque-là. Taille, huitième règle, et là on va rentrer un petit peu dans les profondeurs. Huitième règle de la nuit de noces, connaître toute chose au sujet des rapports intimes. Toute chose. Mes frères et sœurs, je vais aborder avec vous un sujet délicat mais indispensable. Ce sujet est les rapports intimes. Hélas, nos frères et sœurs ne connaissent pas grand-chose à ce sujet. Et certains, par leur ignorance, commettent ce qu'Allah et son prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. J'ai entendu de mes propres oreilles un jeune dire « Moi, je ne savais pas que c'était interdit d'approcher sa femme quand elle avait ses menstrues. Il avait des rapports avec sa femme alors qu'elle avait ses règles. Et ça, c'est haram. Haram du Coran et de la Sunna. Il ne savait pas. Donc l'ignorance fait que nos frères et nos sœurs, qu'ils soient jeunes ou des fois âgés, tombent dans quoi ? Dans ce qui est interdit. On se doit donc de bien détailler ce sujet. Et que notre pudeur ne nous pousse pas à quoi ? À ne pas apprendre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Mes frères et sœurs, avant de détailler ce sujet, prenez bien ce conseil de ma part, que votre pudeur ne vous empêche pas d'apprendre la science, d'apprendre ce qui est autorisé et de connaître ce qui est interdit. D'accord ? En islam, sachez que « la haya fi » pas « fi din »,« fi l'ilm »« li anna din kulluhu haya » D'accord ? Il ne faut pas dire « la haya fi din », c'est une grande erreur qui est répétée dans la bouche de plusieurs personnes. Ils disent « point de pudeur dans la religion ». La religion, elle parle que de pudeur. La religion, elle incite à être pudique. Walakin, c'est point de pudeur dans la science. Dans la science, tu poses tes questions d'une manière propre et, bi'idhnillah, on te donnera la réponse. Claire ? Umm Salama radiallahu anha a dit au prophète, alayhi salatu wasalam, au prophète, elle lui dit, Inna Allah la yastahi min al-haq. Elle a dit, Allah n'a pas honte de la vérité. La femme doit-elle se laver ? Quand elle a fait un rêve, elle parle ici du rêve qui engendre la sortie du liquide. Ça aussi, ça existe chez les femmes, pas que chez les hommes. Il se peut qu'elle voit un rêve qui lui fasse sortir le liquide que l'homme sort quand il voit le même rêve. Donc la femme ici, Umm Salama, elle dit, regarde l'intro, elle lui dit, au prophète, Allah n'a pas honte de la vérité. La femme doit-elle se laver quand elle a fait un rêve ? Il, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, répondit, oui. Si le liquide est visible, ô envoyé de Dieu, la femme éjacule-t-elle ? Regarde ce que la femme elle dit. Donc on voit que la pudeur ne l'a pas empêchée de poser des questions sur des choses qui sont importantes. Là il s'agit de science. D'accord ? Donc point de pudeur dans la science. Ô envoyé de Dieu, la femme éjacule-t-elle ? Oui, répliqua le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, grâce à quoi son enfant lui ressemblerait-il ? Rapporté par Bukhari Muslim. Et l'imam Muslim rapporte dans son chapitre, le livre des menstrues, le hadith suivant. Aïcha radiallahu anha a dit : quelle excellente femme étaient les femmes des Ansar, donc ceux qui habitent à Médine. La pudeur ne les a pas empêchés de s'informer sur leur religion. En effet, il n'est pas permis à une personne que la pudeur l'empêche de poser des questions concernant sa religion, notamment dans les domaines qu'il incombe aux musulmans de connaître, comme tout ce qui concerne la purification et autres sujets. Et le fait de délaisser ce genre de questions qui sont nécessaires, ce n'est pas de la pudeur, bien au contraire, c'est une défaillance et une stupidité. Mes frères et sœurs, sachez que notre religion a pris au sérieux le sujet des rapports intimes. Car ce sujet, s'il n'est pas pris en compte, il peut causer des problèmes de couple immenses, voire même des divorces. Voire même des divorces. Mes frères et sœurs, ce sujet n'est pas à prendre à la légère. il y a plus d'un couple qui s'est séparé à cause du fait qu'ils ne se sont pas entendus sur les rapports intimes. Il ou elle ne sait pas s'y prendre. Il ou elle ne connaissent pas assez sur ce sujet. Ça a poussé à quoi ? Au divorce. Et alhamdoulilah, notre religion est complète. Il n'y a pas un bien qui existe sans que notre religion nous l'ait indiqué. Et il n'y a pas un mal qui existe sans que notre religion nous ait mis en garde contre celui-ci. L'islam nous a tout enseigné. D'après Abu Tufayl, Abu Dharr radiallahu anhu, a dit, le prophète alayhi salatu wasalam nous a laissé et il n'y avait pas un oiseau qui bougeait ses ailes dans les airs sans qu'il nous ait mentionné une science sur cela. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il ne reste rien qui rapproche du paradis et qui éloigne de l'enfer sans que je ne vous l'ai certes montré. Donc notre religion, elle est complète. Le prophète alayhi salatu wasalam, il nous a tout enseigné de A à Z. Et le hadith, il est rapporté par Tabarani et authentifié par l'Albani. En suivant notre religion, on est informé de tout. Inutile d'aller voir ailleurs pour connaître les détails de la relation homme-femme. Pourquoi je vous dis ça ? La raison est simple, car certains pensent qu'il faut regarder des films pornographiques ou écouter les acteurs et les actrices parler d'amour pour en connaître plus sur le sujet. Et ça, c'est une moussib, c'est une catastrophe. Alors qu'au final, ils ne font, je parle ici des acteurs et des actrices, ils ne font qu'appeler à la turpitude, qu'appeler au blâmable. Allah tabaraka ta'ala a dit dans sourate l'A'raf, sourate 7, verset 28, « قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » Dieu ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Dieu ce que vous ne savez pas ? Donc, tu veux t'informer sur ce sujet ? Ce n'est pas avec les films pornographiques. Tout ça, au contraire, ça va te mettre des mauvaises idées et ça peut faire tourner très très mal ton couple. Parce que tu vas construire sur du haram, sur des idées diaboliques, sur des choses qui sont malsaines, sur des choses que notre religion a interdites et pour des raisons qui sont nobles. Sache, mon frère, qu'avant de commencer le rapport intime avec ton épouse, qu'il faudra que tu fasses une invocation. Mon frère, toi qui m'entends, avant d'avoir des rapports avec ton épouse, tu te dois de faire une dua, une invocation. C'est une sunna, la preuve, on rapporte d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui disait que le prophète, alayhi salatu wasalam, avait dit, si l'un de vous souhaite avoir des rapports intimes avec sa femme, qu'il dise, Bismillah, Allahumma jannibna shaytan, wa jannib shaytan, ma razaqtana. Au nom d'Allah, Seigneur, éloigne Satan de nous et éloigne Satan de ce que tu nous offriras. Comme quoi ? Comme progéniture. Si tu fais cette invocation en disant, au nom d'Allah, Seigneur, éloigne Satan de nous et éloigne Satan de ce que tu nous offriras, donc comme progéniture, Satan ne pourra jamais porter de préjudice à l'enfant qui naîtra de ce rapport. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Clair ? Il ne faut donc pas oublier de dire cette invocation avant le rapport. Et c'est le mari seulement qui fait cette invocation. Mon frère, toi qui vas avoir des rapports avec ton épouse la première nuit, tu devras faire attention à ne pas te précipiter et à ne pas brusquer les choses. Tu devras être doux et faire en sorte que sa peur disparaisse. Surtout que généralement les sœurs ont peur de cette nuit. Sois donc élégant, fais tout pour la séduire, commence par lui dire des bonnes paroles. Comme on a dit tout à l'heure, de détendre l'atmosphère par une boisson, quelque chose, un repas, où on s'assoit, on discute. D'accord ? De lui dire de bonnes paroles, type, c'est un exemple, j'ai beaucoup entendu parler de bien, j'ai beaucoup entendu parler de toi en bien, et aujourd'hui je m'aperçois que la réalité est meilleure. D'accord ? C'est des exemples, hein. On ne pense pas qu'il faut apprendre par cœur ça, hein ? C'est pas apprendre à la lettre. Ou bien dis-lui, c'est un honneur pour moi d'être marié avec toi. Des paroles d'amour, des paroles qui lui font plaisir. Et bien sûr, mon frère, tu dois faire ressentir à ta femme qu'elle est chez elle et non pas dans une prison ou une base militaire. Mets-la à l'aise et fais-lui sentir qu'elle est où ? Elle est chez elle. Que c'est une reine dans son palais et qu'elle sera heureuse avec toi tout le temps. Et là, bi'idhnillah, je vais commencer à rentrer un peu plus dans les détails. Donc on a dit, on fait l'invocation. D'accord ? Généralement, l'homme, quand il veut passer donc à l'acte, pour lui, la chose la plus essentielle, c'est quoi ? C'est d'avoir le rapport rapidement. D'accord ? Et il oublie une étape qui est très importante pour la femme, qui s'appelle les préliminaires. Les préliminaires, c'est donc la muqaddima, l'introduction du rapport. Où l'homme, pendant cette introduction, il va caresser sa femme, il va lui dire des bonnes paroles, l'embrasser, etc. Et il va prolonger ça jusqu'à la mettre totalement à l'aise. Et il ne faut pas qu'il soit égoïste et qu'il pense qu'à lui. Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Il est quoi ? Égoïste, il veut rapidement assouvir à ses envies, d'accord ? Terminer ça et donc finir le rapport rapidement. Et la femme, c'est le contraire. La femme, pour elle, l'essentiel, c'est l'introduction, d'accord ? et elle veut se sentir aimée, et elle veut se sentir dans les bras de son mari, etc., etc. Chose que l'homme ne comprend pas forcément, ou qu'il n'a pas en tête. Lui, pour lui, le plus important, c'est rapidement, il faut que je fasse le rapport. On dirait qu'il a un compte à rendre, et hélas, des fois, c'est pour ça. Parce qu'ils attendent le drap et toutes ces idioties. D'accord ? Donc la femme, elle a besoin de douceur. Et plus tu vas faire l'objet de l'attention de ta femme, d'accord, que tu seras gentil avec elle, etc., plus tu vas l'estimer, plus elle va sentir les sentiments qu'il y a dans ton cœur, plus tu vas lui faciliter ce premier rapport avec toi. Clair ? C'est très important ce que je suis en train de vous dire, les frères. Wallah al-Azim, c'est très important. L'homme, pour lui, le rapport, c'est beaucoup plus physique. Et la femme, non. La femme, elle a besoin d'être préparée psychologiquement. Et pour ça, comme je vous ai dit, il faut prolonger quoi ? Les préliminaires. Le mari doit donc s'efforcer de tenir compte de ce point important et de prolonger les préliminaires. Caresses, le fait de l'embrasser, etc. Jusqu'à ce que son épouse se sente prête à passer à l'acte. Dans le cas où l'homme s'y prend mal, il se peut que cela provoque un blocage à sa femme. Un blocage. Et ça peut la suivre toute sa vie. Mon frère, fais tout pour comprendre ta femme, surtout la première nuit. Ne sois pas brusque. De même, sache que ce n'est pas une obligation que tu déflores ta femme la première nuit. Ce n'est pas une obligation. Ça, c'est très important. Ce n'est pas une obligation. Et sache aussi qu'il est possible qu'après ton premier rapport, que la femme ne saigne pas. Il ne faudra pas que l'homme soit brutal, car il risque de faire très mal à son épouse et elle devra l'aider afin qu'il puisse la déflorer. D'accord ? Dans le cas où la femme ne saigne pas la première nuit, qu'il sache que c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ça ne veut pas automatiquement dire qu'elle l'a trompé, qu'elle a eu un passé noir, etc. Non, c'est des choses qui arrivent. Il y a des sœurs qui perdent l'hymen par du sport. D'accord ? Ou d'autres qui ont du mal à tout simplement percer l'hymen. Il prend plus de temps que d'autres femmes. Donc non, n'aie pas directement de mauvaises pensées. Dans le cas où la femme ne saigne pas la première nuit, qu'il sache que c'est des choses qui arrivent et qu'il ne faudra pas trop forcer, et peut-être même qu'il faudra reporter à la nuit suivante. D'accord ? Et de cette manière, la femme, elle va voir que c'est pas quelqu'un qui veut simplement l'utiliser, qui veut juste son physique. Non, il n'y a pas de problème. Si ça ne se fait pas aujourd'hui, on peut le reporter à demain. C'est très important et ça joue beaucoup dans la psychologie de la femme. Mais si toi tu forces et tu fais tout pour finir ça et que tu déflores ta femme la première nuit, il se peut que ça lui laisse des grandes séquelles et qu'elle se souvienne de cette nuit comme étant une nuit noire. Comme étant une nuit noire. Puis une fois que tu auras réussi à déflorer ta femme, fais-la sentir que tu es proche d'elle et que tu l'aimes en la prenant dans tes bras, en étant doux et en t'abstenant d'avoir des rapports avec elle intimes, d'accord ? Pendant au moins les 2 jours qui suivent. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la douleur, elle la suit. Et après, en fonction de ses sentiments à elle, d'accord ? Tu vois ça. C'est-à-dire que si elle en ressent le besoin, le 2e ou le 3e jour, eh ben, tu vois en fonction de la demande et du besoin. Mais sinon, les 2 jours qui suivent la défloration, vaut mieux ne pas avoir de rapport avec l'épouse. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore la douleur. Mon frère, sache que tu as le droit de faire ce que tu veux avec ta femme durant les rapports intimes, excepté 2 choses. Écoutez bien. Il y a 2 choses qui sont haram et il y a des textes dessus dans les rapports intimes. Vous savez c'est quoi ? 1. La sodomie, barakallahu fik. C'est donc le rapport anal. 2. C'est, barakallahu fik, d'avoir des rapports avec sa femme quand Allah c'est monstrueux. D'accord ? Ces 2-là, c'est haram. Il y a des textes dessus qui sont clairs, du Coran et de la Sunna. D'accord ? Ça, c'est les 2 choses qui sont interdites. En dehors de ça, il n'y a pas de texte. Après cela, on rentrera, inchallah, dans les détails. Donc ta femme, tu as le droit de jouir d'elle sans t'approcher de 2 choses. 1. La sodomie. Et 2. De l'approcher quand elle a, c'est quoi ? C'est monstrueux. Quand je dis l'approcher, c'est d'avoir un rapport avec elle. D'accord ? Avec pénétration. Et donc, tout le reste est permis. Ta femme est un vêtement pour toi. Et tu es un vêtement pour elle. Un vêtement. T'as vu quand tu l'enfiles, t'as vu la proximité, t'as vu comment elle est proche. Et c'est pas mes paroles. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 187, « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. » Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Elles sont très proches de vous. Comme l'a dit Al-Sheikh Sa'adi rahimallah. D'accord ? Tu la touches, donc elle est proche de toi, tu dors avec elle, etc. Donc, l'homme peut jouir de sa femme dans toutes les positions qu'il souhaite. Mais à une condition, c'est que ce soit dans le vagin, dans sa partie génitale. La preuve, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Subhanallah, tu vas voir avec moi que notre religion elle est complète de A à Z et que tout, quand je te dis tout, c'est jusqu'au bout, tout a été enseigné par la religion. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 223, Nisa'ukum harthun lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum, wa qaddimu li anfusikum, wa taqullah, wa alamu annakum mulaquh, wa bashiril mu'minin. Allah il dit, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. Ibn Abbas, en commentant ce verset, il a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez à votre champ quand vous le voulez, il a dit, allez à votre champ veut dire le vagin. D'accord ? Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Lorsque le prophète alayhi salatu wasalam récitait ce verset, il disait, écoutez bien ce qu'il disait alayhi salatu wasalam, et ça montre que point de pudeur dans la science. Écoute ce qu'il dit alayhi salatu wasalam, pour pas qu'une personne dise, mais comment est-ce qu'on peut parler de ces choses-là? Regarde ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wasalam. Il a dit, en récitant ce verset, il disait, par devant, par derrière, ou couché, il parle ici de quoi? De rapport intime. Par devant, par derrière, ou couché, bien sûr, il interdit d'avoir le rapport anal, la sodomie. Toute position est autorisée en islam. Ne te limite pas donc à une seule position pendant tes rapports. Ça, c'est très important. Ceux qui sont mariés, on leur recommande de ne pas se limiter à une position et de considérer le rapport comme un art. Prends plaisir avec ta femme et casse la routine. Ça veut dire que l'homme n'est pas dans l'obligation d'avoir tout le temps le rapport intime avec sa femme dans son lit. Non. Il peut, s'il a des enfants et qu'ils ont dormi, le faire dans une autre pièce. Il peut s'habiller d'une manière attirante et elle aussi. Et d'ailleurs, on leur recommande d'être attirant l'un envers l'autre. Clair ? Et le verset qu'on vient de citer, « Vos épouses sont pour vous un champ de labour » a plusieurs causes de révélation. Parmi les causes, selon Abdullah ibn Abbas, il dit, « À l'époque, il y avait un quartier parmi les Ansar. » Les Ansar, c'est les habitants de Médine. « Qui vivaient à proximité d'un quartier de juifs qui sont des gens du livre. » Et Al-Ansar, à l'époque, adorait les divinités. D'accord ? Et ils imitaient les juifs dans beaucoup de leurs faits et gestes, car ils les considéraient comme des gens de science. Et parmi les choses que faisaient les gens du livre, c'est qu'ils n'avaient des rapports avec leurs femmes qu'en position couchée. Car ils disaient que c'est ce qui cachait le mieux la femme. D'accord ? Les Ansar, ils faisaient leurs rapports que couchés. Et ce quartier d'Al-Ansar a été imprégné de ce que faisaient ces juifs. Quant aux Quraysh, donc ceux qui vivaient à la Mecque, eux faisaient autrement durant leur rapport avec leur femme. Ils pratiquaient plusieurs positions, donc ils ne faisaient pas ça simplement couché. Et lorsque les Muhajiroun, c'est ceux qui ont immigré de la Mecque à Médine, ils sont arrivés à Médine, donc eux ils avaient l'habitude de voir les Quraishites avoir des rapports dans toutes les positions. Et les Ansar, ils imitaient les Juifs, ils le faisaient avec une seule position. Donc les Muhajiroun, quand ils sont arrivés à Médine, un homme parmi eux s'est marié, hein, parmi les Muhajirin. Il s'est marié avec une femme parmi les Ansar. Et regarde un petit peu le clash. Et cet homme de Quraysh a voulu pratiquer avec sa femme ce qui était connu comme pratique chez lui. Elle lui a reproché cela et lui a dit, nous ne faisons des rapports avec la femme qu'étant couchée. C'est tout. Fais cela ou bien délaisse-moi. Jusqu'à ce que soit parvenu au prophète alayhi salatu wasalam ses paroles, puis Allah a révélé, vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas limité par une position. Clair ? C'est-à-dire par devant, par derrière ou couché en visant l'endroit d'où vient l'enfant. Cela est une explication d'Abdullah ibn Abbas et ce hadith il est rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. De même que parmi les causes de la révélation de ce verset, on rapporte de Jabir radiallahu anhu qui disait, les juifs disaient que si l'homme prend sa femme par derrière, dans le lieu licite, attention, hein, je ne parle pas de la sodomie, les juifs disaient que si l'homme prend sa femme par derrière dans le lieu licite, l'enfant naîtra strabique. Ça veut dire quoi ? Ahwal. Ahwal, c'est-à-dire qu'il a un défaut de la vision dû à un problème de parallélisme, de l'axe visuel des deux yeux. Alors le verset de la sourate Al-Baqarah fut révélé. Allah a dit, vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voudrez, rapporté par Bukhari Muslim. Et le prophète alayhi salatu wasalam disait, par devant ou par derrière si c'est dans le vagin. Ça c'est le Nabi alayhi salatu wasalam qui le dit. Donc on voit bien que ces choses-là, comme lui les enseignait, nous aussi on doit les enseigner. Nous aussi on doit les enseigner. Ibn Abbas radiallahu anhu me rapporte, Omar ibn Khattab radiallahu anhu vint dire au prophète alayhi salatu wasalam, ô messager d'Allah, j'ai péri. Et qu'est-ce qui a causé ta perte? Demanda-t-il sallallahu alayhi wa sallam. Omar dit, j'ai tourné ma monture cette nuit. J'ai tourné ma monture cette nuit. C'est-à-dire qu'il a eu un rapport avec sa femme, mais de quoi? De par derrière. Le prophète alayhi salatu wasalam ne lui donna aucune réponse et ce verset lui fut révélé: vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voulez. Il alayhi salatu wasalam dit alors: va par devant ou par derrière, mais éloigne-toi de l'anus et des menstrues. Rapporté par An-Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique. Donc on comprend de ces textes qu'on a le droit d'avoir des rapports par n'importe quelle position tant que cela se fait dans la partie intime de la femme, la partie génitale, le vagin. Mon frère, dans le cas où tu as un rapport avec ta femme et que tu jouis rapidement et que tu désires finir rapidement le rapport, prends ton temps et laisse l'occasion à ta femme de jouir elle aussi et de prendre du plaisir. Et comme on a dit, prolonge les préliminaires, prolonge-les. Pour ce qui est du nombre de rapports intimes à avoir avec sa femme, cela n'a pas été déterminé dans les textes de notre religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte qui dit tu dois le faire minimum une fois par jour, ou une fois par semaine, ou deux fois par jour, ou autre. Non. Par contre, cela se fait selon la capacité de l'homme et la femme et selon leur désir. Enregistré. Selon, 1, la capacité de l'homme et la femme, et selon leur désir. Il y en a qui sont capables et ressentent le besoin d'avoir des rapports tous les jours, d'autres tous les deux jours, d'autres tous les trois jours, etc. L'essentiel, c'est que l'homme satisfait sa femme et vice-versa. L'homme, quand il demande à son épouse qu'elle fasse un effort pour accepter, et l'inverse. Dans le cas où l'homme demande trop, et ça c'est arrivé, et j'ai reçu des emails où certaines de nos sœurs se plaignent de cela. Elles disent que le mari, il la demande 2 à 3 fois par jour. Donc 2 à 3 fois par jour, il a des rapports avec elle. Certaines de nos sœurs m'ont même dit, on n'en peut plus, et on limite, on veut le divorce. Parce qu'on prend plus de plaisir, c'est trop. On le fait vraiment pour faire plaisir au mari, et ça y est, il n'y a plus de plaisir, on aimerait même divorcer. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit que la règle générale, c'est que la femme, elle doit obéir à son mari. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit que quand l'homme demande sa femme, et que sa femme se refuse à lui, qu'est-ce qui se passe la nuit? Les anges la maudissent. Et dans une version, Allah est en colère contre elle. D'accord? Et pareil, quand la femme demande l'homme, c'est des deux sens. L'homme aussi doit répondre à la demande. D'accord? Ils se sont mariés, les deux ont ses envies, ses besoins. Faut combler ce besoin. Mais le problème, c'est que c'est vrai, l'homme a tendance à demander plus que la femme. La femme peut patienter sur les rapports, elle peut ne pas avoir d'envie pendant plusieurs jours, voire une semaine ou autre, mais l'homme, lui, généralement, il a plus d'envie. D'accord? Et s'il en arrive à vouloir 2-3 fois par jour, là, il est rentré dans un excès et la seule phrase qu'on lui dit clairement, sans passer par quatre chemins, calme-toi. Sans passer par quatre chemins, c'est calme-toi. Calme-toi. Non mais, je suis sérieux. Pourquoi je dis ça? Parce que la femme, à la fin, il est possible que tellement ça lui pèse lourd, elle demande le divorce. Mais subhanallah, dans cette chose-là, il y a un juste milieu. Et en plus, il est possible, je n'accuse pas les frères qui sont comme ça, mais il est possible que cela ne vienne pas du néant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cause ses envies, alors qu'ils se remettent en question. Je pense que les intelligents ont compris. Qu'ils se remettent en question. D'accord? Et que s'il y a des choses haram qui l'incitent à directement aller avoir des rapports avec sa femme, qu'il cesse et qu'il craigne Allah Azza wa Jal. Le juste milieu est dans toutes choses, les frères. Il y a des gens, pareil, au niveau de la nourriture, ils ont une passion pour la nourriture qui est excessive. Toute chose est avec un juste milieu dans notre religion. Quand tu manges, quand tu as des rapports, quand tu t'habilles, quand tu dépenses, tout. D'accord? Donc mon frère, tu fais attention, contrôle-toi, maîtrise-toi un peu plus. Et fais en sorte que ta femme t'aime. Si elle t'aime, ça va partir automatiquement. D'accord? Et fais que ce besoin se ressente chez toi et chez elle. Ne sois pas égoïste, pense pas qu'à toi. Tu t'es marié avec ta femme parce que tu l'aimes ou parce que tu veux l'utiliser? La femme, pour qu'elle se donne à toi facilement, il faut que ton comportement soit nickel. Il faut que tu fasses les bonnes intros et les bons préliminaires. Mais être comme ça, comme une brute, dès que ça y est, j'ai une envie, tout de suite, je veux passer à l'acte. Là, faut quand même que l'homme il fasse attention de ne pas avoir un excès comme celui qui fait 3 fois par jour. C'est un excès. C'est un excès. Et il se peut, comme je te l'ai dit, que la femme soit nuise par ce comportement. Et notre religion nous dit « la darar wa la dirar ». C'est-à-dire, ni tu nuis, ni on te nuit. Claire? Et dans le cas où l'homme demande trop, un, on lui demande de se calmer. Deuxièmement, de se maîtriser un peu plus et de s'éloigner de ce qui pourrait provoquer ses envies, d'accord? Je parle de ce qui pourrait lui provoquer ça, de manière illicite, ce qu'il regarderait d'illicite. Et il peut avoir recours à autre pratique avec son épouse pour yani calmer cette envie, comme l'a dit l'imam al-Nawawi rahimahullah, et ça montre aussi que les grands savants de notre communauté n'ont pas eu honte de parler de ça. Il dit que qu'il peut donc demander ou avoir recours à une masturbation avec la main de son épouse. D'accord ? Ça, c'est dans le cas où vraiment l'homme, il n'en peut plus, il va craquer. Et on lui dit, après tout cela, qu'il se calme et qu'il contrôle cette passion, parce que dans le cas contraire, qu'il sache que, un, il a commis un excès, 3 fois par jour, et deux, il se peut que la femme perd l'envie totalement d'avoir des rapports avec son mari, et là, c'est lui qui aura tout perdu. Tout. Mes frères et sœurs, l'islam nous fixe des règles dans toutes choses. À nous de ne pas les dépasser. Et parmi les limites à ne pas dépasser dans les rapports intimes, il y a la sodomie, qui est la pénétration anale, qui est interdite en islam. Selon Khuzaym ibn Thabit, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam, a dit « Allah n'a pas honte de la vérité ». Et il a répété cette phrase 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Allah n'a pas honte de la vérité, Allah n'a pas honte de la vérité ». Et il dit, alayhi salatu wasalam, « N'approchez pas les femmes par voie anale », rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'Albani. Et selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam, a dit « Allah ne regardera pas tout homme qui sodomise sa femme », rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'Albani. Et selon Uqba ibn Amr, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam, a dit « Maudit soit celui qui approche les femmes par voie anale », rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Et une petite parenthèse, parce que j'ai reçu ça par email. Une sœur me demande, est-ce que l'homme a le droit, s'il n'introduit pas donc sa partie intime, son sexe, dans l'anus de la femme, est-ce qu'il a le droit au moins de mettre son doigt, d'accord, dans son anus? Et ça, c'est interdit en islam. Les savants ont dit que c'est interdit. Ni le pénis, ni le doigt. Les deux sont haram. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il aura un contact direct avec l'impureté. Et ça, c'est interdit. Deuxièmement, à force de faire cette chose, il se peut qu'il y prenne goût et qu'il veuille passer à l'étape supérieure qui est la sodomie. Et ça, c'est haram. Clair ? Et selon Bouhraïra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, celui qui pratique la sodomie ou a des rapports avec une femme qui a ses menstrues ou qui va voir un devin et croit en ce qu'il lui a dit, il a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Et c'est rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'Albani. Et ici, il s'agit du kufr al-amali. Tawus, rahimallah, un grand imam parmi les tabi'in, a dit, Ibn Abbas radiallahu anhu a été questionné par un homme sur la sodomie. Suite à quoi il dit, cet homme me questionne sur la mécréance. Sur la mécréance, c'est un grand péché. C'est-à-dire quoi? Tu es maudit par Allah si tu sodomises ton épouse? Maudit, c'est-à-dire que le jour du jugement, Allah, il ne te fera aucun cadeau. Pas de miséricorde pour toi. C'est grave, repens-toi si jamais tu as fait ce péché. Et ne le refais jamais de ta vie. Jamais. Et toi, ma sœur, dans le cas où le diable t'a fait aimer cette chose, délaisse cette pratique. Elle est interdite dans notre religion. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimallah, a parlé des résultats de cette mauvaise pratique dans son livre Zad al-Ma'ad. Il a dit, rahimahullah, que parmi les choses les plus graves qui se produisent après avoir pratiqué la sodomie, c'est qu'il est rare que la relation entre l'homme et la femme dure. Obligatoirement, Allah fera qu'ils se sépareront, qu'ils se disputeront et se détesteront. Et concernant ce qui peut découler comme risque physique d'une telle pratique, je vous laisse écouter ce qui suit. Quant à la sodomie, qui est un rapport intime pratiqué par l'anus et qui est tout aussi interdite, écoute bien, les médecins rapportent qu'ils sont eux aussi à risque bien supérieur de transmission d'infections sexuellement transmissibles comme le VIH. Comme le VIH. Mais en plus, entraînent des hémorroïdes, des déchirures et des fissures de l'anus qui sont des maladies qui durent longtemps, parfois toujours, qui reviennent souvent, même après traitement, qui sont extrêmement douloureuses et saignantes, surtout lorsque la personne va aux toilettes pour faire ses besoins. Encore pire, cette pratique déviante qu'est la sodomie est une cause maintenant reconnue du cancer de l'anus. Écoute bien, du cancer de l'anus, et lorsqu'elle est forcée ou violente, elle peut aller jusqu'à entraîner une incontinence fessale. C'est-à-dire que la personne subissant la sodomie ne contrôlera plus son anus et aura des fuites de sel sans pouvoir se retenir. Tout cela provient de sources scientifiques bien fondées. T'as vu ? Donc rappelez-vous du danger de la sodomie dans ce bas monde et dans l'autre. Et sachez aussi que le fait d'avoir des rapports avec son épouse pendant qu'elle a ses menstrues est interdit en islam. La preuve, Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate al-Baqarah, sourate 2 verset 222, « Wa yas'alunaka anil mahid, qul huwa adha, fa'atazilu nisa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathurn, fa'idha tatahharna, fa'atuhunna min haythu amarakumullah, inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahirin. » Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approcher que quand elles sont pures. T'as pas le droit d'avoir des rapports avec elles, c'est Allah qui le dit. Quand elles se sont purifiées, alors cohabiter avec elles, suivant les prescriptions de Dieu, car Dieu aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Anas radiallahu anhu rapporte que chez les juifs, lorsque la femme avait ses menstrues, il l'isolait dans une chambre, ne lui donnait ni à manger ni à boire, et il ne mangeait et ne buvait pas avec elle. Et c'est là qu'Allah tabaraka ta'ala révéla, et il t'interroge sur la menstruation des femmes, dit c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Puis le prophète alayhi salatu wasalam a dit, ne les faites pas sortir de la maison et faites toutes choses avec elles sauf les rapports intimes. Et je vous rappelle que selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, celui qui pratique la sodomie ou a des rapports avec une femme qui a ses menstrues ou qui va voir un devin et qui croit en ce qu'il lui a dit, il a alors mécru en ce qui a été révélé à qui ? À Muhammad. Et c'est rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'Albani. Et l'imam Shawkani rahimahullah a dit, il n'y a pas de divergence chez les gens de science sur le fait qu'il n'est pas permis d'avoir des rapports intimes lorsque la femme a ses menstrues. Il n'y a pas de divergence. C'est interdit, c'est haram. Dans le cas où ta femme a ses menstrues, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports intimes avec elle. Et dans le cas où un homme a des rapports intimes avec sa femme alors qu'elle a ses menstrues, par faiblesse de foi, qu'il sache qu'il a commis un péché et qu'il doit une expiation, une kafara. La preuve. Selon Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wasalam, a dit, celui qui a des rapports avec sa femme qui a ses menstrues, qu'il donne un dinar ou la moitié d'un dinar. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Et pour ce qui est de savoir combien cela fait en monnaie, cela fait environ 40 riyals saoudiens. Ça fait environ 10 euros comme expiation. Certes, c'est pas beaucoup, mais t'as le péché qui est comptabilisé. T'as le péché qui est comptabilisé. Mon frère, j'espère que tu as compris que tu n'as pas le droit d'avoir des rapports intimes pendant que ta femme a ses menstrues. Et d'ailleurs, tu n'as pas le droit d'en avoir jusqu'à ce qu'elle se lave. Il ne suffit pas que le sang s'interrompt. D'accord ? Elle avait ses règles pendant par exemple une semaine. Elle a plus de sang. Tu n'as pas le droit de l'approcher jusqu'à ce qu'elle fasse son bain, sa douche. C'est clair ? Cette opinion est celle d'Al-Jumhur, la majorité donc des quatre écoles, contrairement à Abu Hanifa. Et l'avis le plus fort est celui de la majorité des quatre écoles. Et sachez, et ça c'est un côté scientifique par les médecins, écoutez bien, et sachez que les rapports intimes pratiqués alors que la femme a ses menstrues sont à grand risque de transmission d'infections sexuellement transmissibles et entraînent sur la durée des blessures sur les zones du sexe de l'homme qui sont en contact prolongé avec ce sang. Subhanallah, on voit en fait que notre religion, quand elle nous interdit quelque chose, c'est pour notre bien. T'as vu ? Les médecins, ils le confirment. Notre religion, elle a devancé la médecine et elle a devancé leur découverte depuis 1400 ans. On n'a rien à apprendre de chez eux, on a tout à leur enseigner. Comprenez-le, sois fier d'être musulman, regarde, subhanallah. Par contre, une info très importante, si ta femme a ses menstrues, tu peux jouir d'elle en faisant tout, sauf le rapport intime, c'est-à-dire la pénétration. La preuve, Aïcha radiallahu anha a dit, quand l'une de nous, elle parle des épouses du prophète, alayhi salatu wasalam, quand l'une de nous avait ses menstrues, et que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wasalam, désirait entretenir des rapports intimes avec elle, il lui ordonnait de s'envelopper d'un izar. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle mettait, et c'est rapporté par musulman, hein, elle mettait un vêtement, donc un tissu ou un vêtement à l'intermédiaire de son nombril, d'accord, au genou, et le prophète, alayhi salatu wasalam, faisait tout à part la pénétration. Clair ? Il faisait tout. Et ça, c'est rapporté par l'imam musulman. Donc, je récapitule en disant que l'homme n'a pas le droit à la sodomie, ni au rapport intime pendant les menstrues, ni pendant les lochis. Les lochis, c'est le sang qu'elle a après l'accouchement, d'à peu près 30-40 jours. De même que pendant la journée du ramadan, c'est interdit d'avoir des rapports, ou pendant qu'elle est en état de sacralisation, en état d'ihram, pour Hajj ou Umrah. Tu vas avoir un rapport intime avec ta femme, faut faire une chose importante, c'est quoi ? C'est préparer une intention avant cela. Et quelle est cette intention ? C'est l'intention de se protéger des interdits d'Allah, donc la fornication, le regard illicite, ou bien l'intention d'avoir un enfant, d'accord ? L'intention de préserver sa propre personne, car en préparant cette intention, ton rapport intime avec ta femme devient une adoration qui te fait augmenter tes bonnes actions. T'arrives à imaginer un petit peu ? C'est impressionnant. Écoute la preuve. Dans le hadith d'Abu Dharr, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit « Chaque fois que vous faites acte de chair, vous faites une aumône. » C'est-à-dire, à chaque fois que tu as un rapport intime avec ta femme, tu as des hasanat, tu as des aumônes. T'imagines ? Et là, les compagnons dirent, ô envoyé de Dieu, l'un de nous satisfait son désir charnel et on reçoit en plus une récompense, Et là, le prophète alayhi salatu wasalam dit, écoute bien, s'il l'aurait fait dans l'illicite, est-ce qu'il aurait eu un péché? S'il aurait eu un rapport intime avec une femme dans le haram, est-ce qu'il aurait eu un péché? Il dit oui. Il dit de la même manière, en le faisant dans le licite, il a un salaire, une récompense. T'imagines? Subhanallah. Donc, ce rapport intime qui est un plaisir, un grand plaisir entre l'homme et la femme, se transforme en une adoration par la préparation de l'intention. Attention, c'est une condition. Parce que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes font ce rapport juste pour dégager cette envie, c'est tout. Assouvir à son envie. Ceux-là, on ne dit pas qu'ils sont en train de faire quelque chose de haram, mais ils peuvent transformer cette habitude en adoration avec la bonne intention. Tu vois? Donc prépare la bonne intention avant d'avoir ton rapport, et à chaque fois que tu auras un rapport, et pendant le rapport, tu as des hasanats qui sont comptabilisés. C'est impressionnant, subhanallah. C'est impressionnant, tu as des bonnes actions. Et bien sûr, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, je vous mets en garde contre la fornication. D'accord? Dans le fait d'avoir des rapports intimes hors mariage, faites très attention pour plusieurs raisons. Un, ça provoque la colère d'Allah. Allah, il ne nous a pas interdit la fornication, il a interdit de s'approcher de la fornication. C'est-à-dire d'ouvrir la porte qui mène à la fornication. C'est-à-dire la mixité, le fait de prendre le numéro d'une telle, le fait de chatter sur Facebook avec elle, le fait de la voir, le fait de juste zama, selon lui, hein, la voir, mais j'ai mes limites, hein, t'as vu, c'est comme ma sœur, comme. Shaitan, il va t'enlever le comme vite fait, t'inquiète pas. Tu vois, il n'y aura plus de comme, il n'y aura plus de sœur. Donc, Allah, il nous a dit, n'approchez pas la fornication. Il n'a pas dit, ne forniquez pas. Il a dit, n'approchez pas la fornication. Donc, préservez-vous, faites très attention. Sans compter le sida, de plus en plus du sida, des maladies. Fais attention. Et en plus, toi, mon frère, t'aimerais qu'on fasse ça à ta sœur? Ah, ça te fait mal quand je te dis ça. Hein. T'aimerais qu'on fasse ça à ta mère, à ta cousine, à ta tante? Non. Bah, ne le fais pas aux femmes des autres ou aux filles des autres. Pourquoi? Parce que c'est sûrement la fille d'un tel ou la tante d'un tel ou... la cousine d'un tel, etc. D'accord? Mes frères et sœurs, je tiens à vous parler d'une chose très importante. Une chose que, si je ne vous en parle pas maintenant, il est possible que personne ne vous en touche un mot. Et ne dites surtout pas, mais la honte, le frère, il nous parle de ça. Je vous l'ai dit, on l'a vu ensemble, que le prophète, alayhi salatu wa sallam, enseignait ces choses publiquement, n'est-ce pas? Cette chose est le fait que certains s'imposent de faire le rapport intime dans le noir ou sous la couette. Dans le noir ou sous la couette. Il éteint la lumière ou il fait ça sous la couette. Il dit, c'est interdit que je la vois. Ils prennent pour preuve certains athar, des narrations qui ont été rapportées, qui n'ont pas été confirmées par le prophète alayhi salatu wasalam. Mes frères et sœurs, il n'y a rien d'authentique sur le fait d'avoir des rapports intimes dans le noir ou sous la couette. Il n'y a rien qui est prouvé. Tout ça, ça n'a pas de fondement. Mon frère, ma sœur, rien ne t'empêche en islam de voir la nudité de ta femme pendant les rapports intimes. La preuve. On parle toujours avec preuve, alhamdoulilah. Un rapport de Aïcha radiallahu anha qui disait, le prophète alayhi salatu wasalam et moi, nous nous lavions de la grande souillure, donc de l'janab, dans un même récipient et nos mains s'y croisaient, rapportées par Bukhari et Muslim. On se lavait du même récipient, de l'janab, et pour se laver de l'janab, il faut être nu. Donc, ils se lavaient dans le même récipient. Et dans une version similaire, Ibn Hibban rapporta, nos mains s'y croisaient. Donc, tu as le droit de te doucher avec ta femme. Et l'imam Ibn Hajar rahimallah a dit, il a été établi à partir de ce hadith la permission pour les époux de regarder mutuellement leur partie intime. Ça, c'est la parole d'Ibn Hajar rahimallah. Il dit que l'homme, il a le droit de voir la nudité de sa femme et l'inverse. Il n'y a aucun problème. Et de prendre une douche avec elle, sans problème. D'accord? L'homme a donc le droit de voir sa femme nue et l'inverse est permis. Et selon Hakim Ibn Hizam, une deuxième preuve. D'après son père, je demandais au envoyé de Dieu, que nous est-il permis de laisser apparaître de nos parties honteuses, donc de nos parties intimes. Et que nous est-il demandé de cacher? Le prophète alayhi salatu wasalam dit, cache tes parties honteuses, sauf de la vue de ta femme. Donc il a fait une exception. L'épouse, elle a le droit de le voir nu, et lui, il a le droit de voir son épouse nue. Et c'est rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi ibn Majah, Ahmed est jugé valide par l'Albani. Cela prouve qu'il n'y a pas de partie du corps à cacher entre l'homme et la femme. Mes frères et sœurs, dans le cas où un homme désire, après avoir eu un rapport avec son épouse, d'en avoir un autre, d'accord? Il a eu un rapport, on va dire par exemple une demi-heure, une heure après, il désire en avoir un autre. Le prophète alayhi salatu wasalam recommande de faire ses ablutions entre les deux rapports. La preuve, on rapporte d'Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wasalam a dit que celui parmi vous qui a des rapports intimes avec sa femme et qui veut en avoir de nouveau, fasse les ablutions, donc les ablutions normales entre les deux, rapportées par muslim. Et Al-Hakim ajouta, c'est stimulant pour revenir. Donc c'est plus stimulant, quand tu fais tes ablutions, tu te mets de l'eau dans le visage et tout, ça te réveille, ça stimule encore plus pour avoir un deuxième rapport. D'accord? Ça c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Donc si tu as eu un rapport, tu vas en avoir un deuxième, il est recommandé de faire quoi? Les ablutions entre les deux. Mais si l'homme fait le rosl, donc les grandes ablutions entre les deux rapports, cela est meilleur. La preuve, selon Abu Rafi'a radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam fit le tour de ses épouses. Donc il a eu un rapport avec elle, toutes ses épouses, se lavant chez celle-ci et chez celle-là. Se lavant chez celle-ci et chez celle-là. Je lui ai demandé, ô messager d'Allah, ne te contentes-tu pas d'un seul lavage? Il alayhi salatu wasalam répondit, c'est meilleur, plus pur et plus propre. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission fiable. Tiens, une question à poser qui est importante. À partir de quel moment l'homme et la femme sont en janaba, en impureté majeure? À partir de quel moment? Quand le frère dit quand le liquide sort. Faux. Contact, c'est-à-dire que l'homme juste touche la femme. La pénétration de quoi exactement? Tout le sexe? Du gland, barakallahu fik. C'est très important, c'est un détail très très important. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit « إِذَا الْتَقَ الْخِتَنَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلِ » Il a dit dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui est rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'Albani, lorsque les deux organes génitaux se rencontrent, le lavage devient obligatoire. Ça veut dire que, à partir du moment où il y a la pénétration du gland de l'homme dans le vagin de la femme, là, à ce moment-là, c'est fini. Les grandes ablutions sont obligatoires, même s'il n'y a pas de liquide spermatique qui sort de l'homme. D'accord? Juste le fait de pénétrer le gland dans le sexe de la femme, c'est fini. Tu dois faire les grandes ablutions, même s'il n'y a pas eu de sortie de liquide. Donc, l'homme, quand il pénètre sa femme, comprenez-le bien, que le rosl devient obligatoire que si à peine le gland rentre dans le sexe de la femme. Même s'il n'y a pas une pénétration complète, le rosl est obligatoire à partir du moment où le gland est rentré dans le sexe de la femme. C'est bien compris? Et bien sûr, s'il y a pénétration sans éjaculation, le rosl est quand même obligatoire. Si, s'il n'y a pas de pénétration et qu'il y a le liquide qui sort, là, le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit « innama al-ma min al-ma ». Ça veut dire que les grandes ablutions se font quand le liquide sort. D'accord? Si le liquide ne sort pas, il n'y a pas de grandes ablutions à faire. C'est clair? Et c'est rapporté par Bukhari Muslim selon Abu Saïd. Et on rapporte d'Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète, alayhi salatu wasalam, avait dit « celui qui a des rapports intimes avec sa femme doit se laver ». D'accord? Mais Muslim ajouta « même s'il n'éjacule pas ». Mon frère, dans le cas où tu es junub, donc en impureté majeure, ne dors surtout pas avant de laver ta partie intime, donc ton sexe, et faire au minimum tes ablutions. La preuve, Aïcha radhiyallahu anha rapporte, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam était en état de janaba, donc quand il a eu un rapport, il ne dormait pas et ne mangeait pas avant de faire le rusl, donc les grandes ablutions. Ou ses ablutions comme pour la prière, rapportée par Bukhari Muslim. Ne dors pas en état d'impureté majeure. Et attention, ces ablutions ne t'autorisent pas, que tu vas faire après le rapport, les ablutions ne t'autorisent pas à faire la prière. Parce que tu dois faire les grandes ablutions pour la prière. D'accord? Et ça ne t'autorise pas aussi à lire le Coran. Ça n'enlève pas la janaba, mais ça la diminue. Wadih? Et concernant le fait de faire les ablutions avant de dormir, lorsqu'on est en janaba, c'est fortement recommandé et non obligatoire selon Al-Jumhur, la majorité des savants. Et écoute, Ibn Umar rapporte, Umar demanda au prophète, alayhi salatu wasalam, l'un de nous, peut-il dormir en état de janaba, donc en impureté majeure? Le prophète, alayhi salatu wasalam, répondit, oui, s'il fait ses ablutions, rapporté par Bukhari Muslim. C'est-à-dire que tu veux dormir en état d'impureté majeure, tu peux, mais fais au moins tes ablutions. Et c'est âme, c'est général pour l'homme et la femme, pas que pour l'homme. D'accord? Les deux, ils feront leurs ablutions. Et même s'ils ne font pas leurs ablutions, ils ne sont pas tombés dans le haram. D'accord? Mais ce qui est recommandé, c'est au moins de faire les ablutions et de se laver la partie intime avant de dormir. Et regarde ce hadith avec moi. Selon Ammar, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il y a trois types de personnes que les anges n'approchent pas. Le cadavre du mécréant, celui qui est inondé de khalouq, c'est celui qui se parfume avec les parfums de femmes, et celui qui est en état de janaba, sauf s'il fait ses ablutions. Ces trois-là, les anges ne les approchent pas. C'est rapporté par Abu Daoud et jugé valide par l'Albani. Aïcha radhiyallahu anha rapporte, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam était en état de janaba, donc en impureté majeure, et qu'il désirait dormir, il faisait ses ablutions ou le tayammum. Il ne trouve pas d'eau, il fait le tayammum, les ablutions sèches. C'est pour te montrer qu'il insistait dessus, et c'est rapporté par le Bayhaqi. Tout cela pour diminuer la souillure, la janaba. Et selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wasalam dormait alors qu'il était en état de janaba sans même toucher d'eau. Ça lui est arrivé au prophète alayhi salatu wasalam de dormir sans toucher d'eau, c'est-à-dire il n'avait pas fait ses ablutions ni les grandes. Clair? Et c'est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah et authentifié par l'Albani. C'est pour te montrer que tout est autorisé, mais il est recommandé de faire quoi? Tes ablutions minimum, le mieux c'est de faire le rusl. Clair? Et pour ce qui est du rusl, vous savez comment on le fait? C'est hyper facile. Premièrement, tu te laves les mains. D'accord? Puis les parties intimes, donc devant et derrière. Puis tu fais tes ablutions comme pour la prière. tu te laves le crâne 3 fois, tu fais verser de l'eau sur tout ton corps. Tu fais verser de l'eau sur tout ton corps. D'accord ? Et bien sûr, dans le ghusl, tu vas faire tes ablutions et il y aura al-madmada wa al-istinshaq. Tu vas donc te laver la bouche et le nez. Clair ? Ça, c'est donc pour ce qui est du ghusl. Mes frères et sœurs, on vous a parlé de la sodomie, des rapports pendant les menstrues, de la nudité de l'homme et de la femme. Mais Inch'Allah, on va essayer de parler de tout. Concernant la masturbation. La masturbation, pour l'homme et pour la femme, ils sont interdits. C'est haram. Sauf si l'un le fait à l'autre dans le couple. D'accord ? Mais lui-même, il n'a pas le droit de le faire. La preuve, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate al-Mu'minun, Sourate 23, versets 5 à 7, « Qad aflaha al-mu'minun » Et ensuite, il décrit qui sont les croyants. Et ensuite, il dit « Azza wa Jal »« Wallazina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara dhalik fa ulaika humul adun. » Bienheureux sont certes les croyants. Qui sont les croyants ? Allah, il les décrit. Puis après, parmi leurs qualités, parmi les critères des croyants, c'est ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses. Et le fait d'avoir recours à la masturbation, c'est le fait d'avoir un rapport avec autre que son épouse, en utilisant ta main. Et ça, c'est haram. Parce qu'Allah, il a dit quoi ? Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites, c'est-à-dire ils cherchent en dehors de l'épouse, avec sa main, d'avoir des rapports, ceux-là sont les transgresseurs. Clair ? Par contre, comme j'ai dit, la femme a le droit de masturber son mari, car ce n'est pas lui qui le fait. Clair ? Pour ce qui est de l'amour oral. Et ça, on est obligé d'en parler. Et comme on vous a dit depuis le début, point de pudeur dans quoi ? Dans la science. L'amour oral, c'est la fellation et ce qu'on appelle le cunnilingus. C'est de là, que dit l'islam dessus ? Beaucoup de gens nous envoient des mails en nous disant, mais finalement, c'est halal, c'est haram ? Est-ce qu'il y a des textes dessus ? Qu'est-ce qu'on fait ? Certains savants disent que c'est autorisé sans problème, parce qu'il n'y a pas de texte qui interdit. D'autres disent, non, c'est de la ressemblance aux musulmans, c'est une manière de ressembler aux occidentaux, c'est une manière illicite, c'est pas quelque chose de correct pour un musulman qui lit le Coran, de faire ceci et cela, etc. Donc finalement, qu'ont dit les savants dessus ? Si on regarde ce sujet d'un point de vue religieux, sachez qu'il n'y a pas un texte qui l'interdit. D'accord ? Mais par contre, il y a des efforts d'interprétation de certains savants. Donc déjà, pour dire que ces pratiques-là sont haram, haram, il faut un texte. Il faut un nas shar'i. D'accord ? Et on a vu que les deux choses qui sont interdites dans le rapport, c'est quoi ? La sodomie et le fait de l'approcher quand elle a ses menstrues. Quand je dis l'approcher, je parle ici de pénétration. Mais qu'en est-il donc de la fellation et du cunnilingus ? Pour ce qui est de ces deux choses-là, on vous l'a dit, que la règle est que l'homme et la femme ont le droit de jouir l'un de l'autre à partir du moment où aucun texte religieux ne leur interdit cela. D'accord ? Mais par la permission d'Allah Azzawajal, j'ai pu retrouver les paroles des anciens sur le sujet, à savoir, qu'aul l'imam Malik, rahimahullah, et inutile de vous dire qui est l'imam Malik, tout le monde le connaît très bien. L'imam Malik, rahimahullah, a dit, il est permis à l'homme de regarder la partie génitale de sa femme, à savoir donc le vagin, pendant le rapport, et il a dit dans une version, et de passer sa langue sur le vagin. Ça, c'est ce que l'imam Malik, rahimahullah, il a dit. Et Al-Fannani al-Shafi'i de l'école Shafi'ite a dit que l'époux est autorisé à jouir de toutes les parties de son épouse, à l'exception de l'anus, d'accord ? Même s'il souhaitait la succion de sa partie génitale, cela lui est permis. Ça, c'est donc chez Al-Shafi'i. Et Al-Mawardi al-Hanbali a dit dans l'Insaf, donc ça, c'est l'opinion hanbalite, a dit que Al-Qadi a dit dans Al-Jami', il est permis d'embrasser la partie génitale de la femme avant le rapport intime et il déconseille de le faire après. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'écoulement du liquide. Et il dit, la femme a le droit de toucher le sexe de l'homme de même que l'embrasser avec envie. Ça, c'est ce qui est rapporté chez les grands savants. Je parle ici des anciens. Je parle ici des anciens. Bien sûr, il faut pour cela qu'il y ait le consentement des deux parties. Il faut que la femme le veuille et l'homme aussi. D'accord ? Car le rapport intime ne doit pas devenir une chose qu'on fait avec dégoût. Et il faut aussi souligner que la substance que les organes génitaux masculins et féminins sécrètent au moment de l'excitation, et on ne parle pas ici de al-mani, al-mani c'est donc le liquide spermatique, non, je parle ici de al-mavi. Vous savez c'est quoi al-mavi ? C'est un liquide qui sort au moment de l'excitation, chez l'homme et chez la femme. Des fois l'homme, il peut avoir ce liquide-là, sans même avoir de rapport, juste en pensant par exemple au rapport ou quelque chose, il peut avoir cette sortie de liquide. Elle est impure, najissa, d'accord ? Elle incombe un lavage de la partie intime et la personne ne fait pas ses grandes ablutions mais juste ses ablutions pour la prochaine prière. Et il se peut que lorsque la personne pratiquera cette fellation ou ce cunnilingus, que ce mavi, cette substance donc qui sort après excitation et qui est najissa, il se peut qu'elle sorte et donc il sera interdit de l'avaler. Je vous parle avec tous les détails parce que ces choses-là, comme je vous l'ai dit, si on ne vous les enseigne pas, Allahu a'lam qui vous les enseignera ? Allahu a'lam, je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire que si le frère Nader ne l'aborde pas, personne ne l'abordera. Mais c'est important qu'on vous en parle en détail. Claire ? Taïb, une autre question. Dans le cas où l'homme est impuissant, c'est-à-dire que son sexe, il ne se dresse pas. Si la femme était avertie de cela avant le mariage, donc l'homme lui a dit, voilà, j'ai un défaut physique, j'ai un problème au niveau de la santé, c'est que mon sexe ne se dresse pas, d'accord ? C'est-à-dire qu'il ne pourra pas donc avoir de rapport avec elle. Et parmi les choses, j'ai bien dit parmi, pas c'est pour cette chose qu'on se marie, mais parmi les choses pour lesquelles on se marie, c'est aussi pour se préserver, pour pas tomber dans le haram, n'est-ce pas ? Et bien si la femme, elle était avertie avant le mariage que l'homme, il était impuissant, là, elle n'a pas le droit après le mariage de demander le divorce. Elle était déjà avertie. Mais dans le cas où il ne l'a pas avertie, il lui a caché, ou que cette chose soit venue après, d'accord ? Qu'il était, alhamdoulilah, bien, et après il a eu cette maladie, il est devenu impuissant. À ce moment-là, si cette chose vient après, d'accord ? À ce moment-là, le divorce lui est permis, et si elle patiente, elle est récompensée. D'accord ? Parce que quand même, une femme qui vit toute sa vie sans avoir d'enfant, sans avoir de rapport, c'est quelque chose de très dur pour elle, n'est-ce pas ? Ensuite, les moyens de contraception. Préservatifs, pilules, etc. Est-ce que c'est halal ou haram ? En islam, l'un des buts primordiaux du mariage est la perpétuation de la race humaine. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam a encouragé dans les hadiths la multiplication des naissances. Il a dit « Tazawwaju al-wadud al-walud » Mariez-vous avec la féconde, l'affectueuse, la féconde celle qui fait des enfants. D'accord ? Cependant, il a aussi autorisé aux croyants de réguler et planifier les naissances en cas de nécessité. C'est-à-dire quoi ? Écoute, Jabir radiallahu anhu, c'est un compagnon, il dit « Du temps de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wasalam, nous pratiquions al-azl » Tu sais c'est quoi l'azl ? C'est l'éjaculation externe. C'est-à-dire qu'à la fin du rapport, au lieu d'éjaculer dans le sexe de la femme, il se retire et il éjacule à l'extérieur. C'était donc chez eux leur moyen de contraception pour ne pas avoir d'enfant. Nous pratiquions l'éjaculation externe alors que le Coran était révélé et Muslim rajouta, le prophète était au courant et ne nous l'avait pas interdit. Le premier hadith il est rapporté par Bukhari Muslim et Muslim il a rajouté cette deuxième phrase. Le prophète alayhi salatu wasallam était au courant et ne nous l'avait pas interdit. Donc l'éjaculation externe à l'azl, d'accord ? Était à cette époque le seul moyen de contrôler les naissances. Il n'y avait pas à l'époque de préservatifs, de pilules, etc., stérilés, les implants contraceptifs, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, c'était ils se retiraient. Le principe même de la tolérance du recours à des méthodes de contraception temporaire pourrait être déduit à partir de cette permission de l'éjaculation externe. Parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il était au courant et il ne l'aura pas interdit. D'accord ? Cependant, comme il existe un certain nombre de hadiths qui déconseillent cette pratique, déconseillent pas, qui disent que c'est haram, comme le hadith d'Aïcha radiallahu anha, qui est rapporté par un musulman, dans lequel le prophète, alayhi salatu wasalam, il en parle en disant que l'azl, c'est une forme de wa'd khafi. C'est quoi ? C'est une infanticide dissimulée. Là, les savants sont d'avis que le recours aux moyens de contraception n'est toléré que sous certaines conditions. Alors note bien les conditions, il y en a quatre. 1. Que la méthode de contraception employée doit être réversible et temporaire. Temporaire. D'accord ? C'est-à-dire que le moyen de contraception que tu as utilisé ne fait pas en sorte que la femme n'aura plus jamais d'enfant. Dans le cas où c'est ça, c'est haram. D'accord ? Ça doit être quelque chose de temporaire. Exemple, absence de rapport pendant certains jours déterminés, en fonction de la période d'ovulation. Usage de préservatifs. Pilules, d'accord ? Et attention dans les pilules parce qu'il y en a plein qui nuisent à la santé. Ou de crème spermicide. Usage de moyens empêchant l'ovulation, etc. Sont interdites les méthodes qui entraînent la stérilisation définitive de l'homme ou de la femme, ligature des trompes, etc. Des savants condamnent également les moyens de contraception qui n'agissent qu'après la fécondation ou empêchant seulement l'anidation de l'œuf fécondé, comme c'est le cas par exemple pour la pilule du lendemain. Donc la première chose, on a dit, c'est que le moyen de contraception soit réversible et temporaire. 2, que la méthode de contraception ne doit pas être préjudiciable. Elle ne doit pas faire peser un risque important sur la santé. 3, il doit y avoir un accord commun entre les époux. D'accord ? Il faut qu'il y ait un accord. 4, elle doit être motivée par un besoin réel. Exemple, la grossesse présente un risque avéré pour la santé physique ou mentale de la future mère. D'accord ? La présence d'un risque avéré que le futur enfant soit atteint par une maladie héréditaire dangereuse. La difficulté à assumer des naissances répétées et rapprochées. D'accord ? Ça, c'est les raisons pour lesquelles tu peux utiliser un moyen de contraception. Et sache une chose, c'est que même avec le moyen de contraception, si Allah il a écrit que tu auras un enfant, tu l'auras quand même. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, si Allah avait décidé qu'un enfant devait naître, tu ne pourrais jamais l'éviter. Jamais tu pourras l'éviter, quoi que tu fasses. Et c'est rapporté par Ahmad Abu Daoud et ceux qui ont donné la version. Clair ? Mes frères et sœurs, on vous a parlé maintenant de tout ce qui est fellation, masturbation, etc., etc. Et là, j'ai une parenthèse très importante à faire. Après avoir eu des rapports intimes avec ton épouse, et toi, ma sœur, avec ton époux, attention à ne pas en parler aux gens, en leur racontant ce qui se passe entre vous. D'accord ? Mon frère, ma sœur, racontez jamais aux gens ce que vous faites dans votre lit. Ça, ça fait partie des grands péchés en islam. Écoutez ce hadith. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète alayhi salatu wasalam, a dit, le jour du jugement, l'homme qui aura la plus mauvaise position auprès d'Allah est celui qui a eu avec une femme des rapports, donc en secret, et qui le divulgue par la suite. C'est rapporté par muslim. Et Cheikh Al-Uthaymeen dans le Sharh, il dit que c'est valable pour l'homme et la femme. Et Asma bint Yazid, radiallahu anha, rapporte que le prophète, alayhi salatu wasalam, écoute un petit peu, wallah, ce hadith, il est impressionnant. Et Asma bint Yazid, radiallahu anha, rapporte qu'elle se trouvait chez le prophète, alayhi salatu wasalam, alors que des hommes et des femmes étaient assis. Puis il, alayhi salatu wasalam, a dit, il se peut qu'un homme raconte ce qu'il fait avec son épouse. Et il se peut qu'une femme donne des informations de ce qu'elle a fait avec son mari. L'assemblée observa le silence et Asma dit, en effet, par Allah, au messager d'Allah, elles font cela et ils le font. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit alors, ne le faites point, car c'est comparable à un diable qui rencontre une diablesse en chemin, puis a des rapports sexuels avec elle alors que les gens regardent. Quand tu rapportes aux gens ce qui se passe dans ton lit, comme intimité, c'est comme si tu étais un diable qui a rencontré une diablesse dans la rue et que tu as eu un rapport avec elle devant tout le monde. C'est grave. Et c'est rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission fiable. Certaines sœurs disent par exemple, mon mari, il me fait ceci et cela. Et toi, raconte-moi en détail. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Ou bien, l'homme, je te raconte pas, je te fais pas de dessin ce que je vais rentrer faire. Là, franchement, aujourd'hui, laisse tomber. Mais c'est grave, wallah, il a dit, mais c'est grave. Et là, certaines familles demandent à savoir ce qui se passe en détail dans le lit de leur fils ou de leur fille. Alors, la première nuit, raconte, c'était dur. T'as pas le droit d'en parler, ma sœur. Pareil pour toi, mon frère, t'as pas le droit. Et tu les vois le lendemain, alors c'était comment ? Ou d'autres, montre-moi le drap pour que je vérifie bien que le sang a coulé, d'accord ? Et que je me rassure que t'étais bien vierge. A'oudhou billah. Tout ça, c'est interdit, c'est contre la pudeur. Voilà, pour vous, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, un résumé de ce que vous devez connaître au sujet des rapports intimes, en espérant que cela soit bénéfique pour vous. J'espère ne pas avoir utilisé des mots qui était choquant, et avoir utilisé yani, les termes les plus propres possibles pour vous parler de ce sujet qui, comme vous avez vu, il est assez délicat, et il fallait quand même vous en parler. Et je finis avec la 9e règle de la nuit de noces, qui est al-walima. Le mot walima, en arabe, vient du mot al-walm, qui signifie le rassemblement. Donc al-walima, c'est quoi ? C'est le repas du mariage. D'accord ? C'est le repas du mariage. Son statut, la majorité des savants considèrent que ce repas est fortement recommandé. D'accord ? Parmi les textes qui recommandent le walima, Buraïda radiallahu anhu rapporte que lorsque Ali radiallahu anhu a demandé en mariage Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wasalam, le prophète alayhi salatu wasalam a dit il est obligatoire pour chaque mariage d'avoir un repas. Rapporté par Ahmed et authentifié par l'Albani. Le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné à Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu de faire al-walima en lui disant fais al-walima, donc le repas de noces, ne serait-ce qu'en sacrifiant un mouton. Ce qui veut dire, fais un repas pour célébrer le mariage. Et c'est rapporté par le Bukhari. Clair ? Et sachez que ce n'est pas une condition qu'il y ait de la viande, du poulet ou du poisson dans al-walima, le repas de noces. Il est permis que le walima soit un repas simple sans viande. La preuve, Anas radiallahu anhu a rapporté que le prophète alayhi salatu wasalam avait fait une walima sans qu'il n'y ait de pain ni viande. Si ce n'est qu'il avait ordonné de poser des pots en cuir, ce confit. On y posa des dattes, du raqit et du beurre. Et les gens furent rassasiés, rapportés par Bukhari Muslim. Et dans une version, il a fait une walima avec deux mouds d'orge, c'est-à-dire environ 1,5 kg. Un moud, c'est 750 grammes. Donc comprenez que la présence de la viande n'est pas obligatoire dans le repas de noces. Tu le fais, tant mieux. Quant au moment dans lequel on fait la walima, les savants ont divergé à ce sujet. Certains parmi les gens de science considèrent que la chose est souple, que cela commence à partir du contrat de mariage jusqu'à la fin du mariage. Et d'autres parmi les savants, comme c'est le cas de Cheikh Al-Albani, rahimallah, a dit qu'il faut que la walima ait lieu avant les trois premiers jours qui suivent le mariage. Et l'avis le plus fort est le premier avis, celui de la majorité des savants. D'accord ? Qui est que tu as le droit de faire al-walima à n'importe quelle date, à partir du moment où le contrat de mariage est fait. Et pour l'opinion qui dit que al-walima doit avoir lieu que dans les trois jours qui suivent le mariage, cela n'est pas fondé sur des preuves claires. Et attention, mes frères et sœurs, faites pas comme beaucoup de gens qui n'invitent que les riches et négligent les pauvres dans les repas de noces. D'accord ? Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit « Le pire des repas de noces est le repas de noces pour lequel on invite les riches et on laisse les pauvres. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Et sache mon frère, ainsi que toi ma sœur, que tu te dois de répondre à l'invitation d'une walima. Dans le cas contraire, quand tu n'y vas pas, tu ne réponds pas à cette invitation, tu as désobéi à Allah et à son prophète alayhi salatu wasallam. Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit « Quiconque ne répond pas à l'invitation du mariage aura désobéi à Allah et à son prophète. » C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et tu dois également répondre à cette invitation même si tu es en état de jeûne. Même si tu jeûnes quoi ? Le jeûne surrogatoire, pas l'obligatoire, d'accord ? Celui qui accomplit un jeûne surrogatoire est le chef de sa propre personne. S'il souhaite, il jeûne, et s'il souhaite, il rend son jeûne, et c'est rapporté par Nasaï. Mes frères et sœurs, je vous ai dit qu'il fallait répondre à l'invitation, d'accord ? De l'walima, le repas de noces, mais il est important de vous signaler que cela doit se faire sous certaines conditions. 1. Que ça soit la première invitation. Car si c'est la deuxième, tu n'es pas obligé d'y aller. Il s'est marié, il a divorcé, il s'est remarié, par exemple. D'accord ? C'est la première walima où c'est obligatoire de t'y rendre. Deuxième condition, qu'il soit musulman. Dans le cas où il n'est pas musulman, tu n'es pas obligé de te rendre à sa walima. 3. Qu'il ne fasse pas partie des pervers, car il n'est pas obligatoire de se rendre à leur walima. 4. Que tu sois invité par ton nom et que ce ne soit pas une invitation générale. Les frères, vous êtes tous invités dans ma walima. Je ne t'ai pas cité, tu n'es pas obligé de venir. D'accord ? Mais si je te cite, là, tout change. Clair ? Qu'il n'y ait pas de munkar, d'acte blâmable, dans le cas où tu sais qu'il y en aura, tu n'es pas obligé d'y aller. Clair ? Sixièmement, qu'il n'y ait pas un risque pour toi si tu y vas. D'accord ? Et parmi les règles attachées à l'walima, c'est faire des doigts pour celui qui t'a invité. Tu as fini de manger, d'accord ? Tu dis pas salam alaikum comme ça. Tu leur fais des doigts. Abdullah ibn Busr, radiallahu anhu, rapporte que son père prépara pour le prophète, alayhi salatu wasalam, un repas et l'invita. Il répondit à l'invitation et lorsqu'il termina le repas, il dit « Allahumma aghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. » Ou Allah, pardonne-leur, fais-leur miséricorde et accorde-leur la bénédiction dans ce que tu leur donnes, alaykum assalam. Et c'est rapporté par Ibn Abi Shayba. Ou bien tu peux dire « Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. » Ou Allah nourrit celui qui m'a nourri et abreuve celui qui m'a abreuvé, rapporté par Muslim. Ou bien akala ta'amukum al-abrar wa sallata alaykum al-mala'ika wa aftara 'indakum as-sa'imun. Ça c'est une version, il y a d'autres versions. Puissent les vertueux manger votre repas, les anges prier sur vous et les jeûneurs rompre le jeûne chez vous, rapporté par Ahmed. Et rien ne t'empêche de lui dire aussi qu'Allah bénisse ton couple, qu'Allah fasse que vous soyez heureux tout au long de votre vie. N'oubliez pas qu'Allah tabaraka ta'ala dit wa qulu lin-nasi husna, dites aux gens de bonnes paroles. Et parmi les règles à observer, offrir des cadeaux pour les nouveaux mariés. Umm Sulaym radhiyallahu anha a envoyé un cadeau au prophète alayhi salatu wasalam le lendemain de son mariage. Elle lui a envoyé du haïf. C'est un plat que le prophète alayhi salatu wasalam aimait. Donc dans la mesure du possible, offrir un cadeau aux nouveaux mariés, d'accord ? Ça c'est une bonne chose. Que ce soit de la nourriture, des vêtements ou autre, c'est le geste qui compte. Voilà mes frères et sœurs, un résumé, j'ai bien dit un résumé de ce que l'époux et l'épouse doivent faire la première nuit, la nuit de noces. Qu'Allah tabaraka ta'ala marie tous les célibataires de notre communauté. J'entends pas Amin. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que leur mariage soit conforme au Coran et à la Sunna et qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'on a pu dire aujourd'hui, d'accord ? De faire un effort de se conformer au Coran et à la Sunna et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ce rappel soit bénéfique même pour ceux qui sont déjà mariés. Wa akhiran as'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu 'azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.